Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ce podcast s'intitule Sur Parole.
Sur Parole.
Il est présenté par Gigi Pop.
Sur Parole.
L'invité est Anis Rally.
Oui, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur Parole, le podcast où l'interview est guidée par une chanson. Aujourd'hui, je reçois un créateur de contenu, animateur, réalisateur, auteur, humoriste, stand-upper. Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Je ne sais pas. Il s'appelle Anis Rally.
Ouais, le roller, j'ai trop du mal.
Tu fais pas du roller ?
Ah ouais, mais c'est vraiment un truc. Ça m'énerve, quoi.
T'essayes pour de vrai ?
Ouais, j'arrive pas à maîtriser le truc. Je pense que c'était pas le sujet, mais je te le dis.
Ce sera peut-être le sujet après.
Dans en tout cas, j'ai trop du mal à faire du roller. Voilà, je me suis outé là.
Tu fais du roller ? Attends, tu fais du roller...
Tout, j'ai tout essayé.
En patin, ligne ou quad ? Ah oui.
Patin et ligne, ouais. J'ai tout essayé, j'arrive pas. Et du coup, ouais, patinoire aussi, je suis à chier.
Patinoire, t'es à chier ?
Tu vois, j'arrive un peu, ça qui est... J'arrive un peu, mais j'ai pas le step qui fait que ça devient magique.
Attends, parce que je crois qu'on va en reparler à un moment.
Ok. Wow.
Donc, on va pas spoiler tes aptitudes de roller. Mais...
je pouvais pas savoir, franchement. Je me suis dit, là, je fais vraiment une digression qui te fait chier. Et tu me dis, non.
Là,
c'est vraiment le sujet du podcast.
Évidemment. Eh ben, écoute, Adi, je suis trop content de te recevoir.
Bah ouais, pareil.
On va pas mentir, on s'est vu pas plus tard qu'il y a deux jours. Ça fait pas si longtemps qu'on s'est pas vu, mais trop bien. Écoute, est-ce que tu connais la question rituelle qui ouvre ce podcast ?
Oui, je crois, ouais.
Ben oui, parce que je te l'ai posé juste avant de venir. C'est quelles sont tes paroles de chansons préférées et pourquoi ?
Bah moi, souvent, c'est plus des punchlines, tu vois.
Ouais.
Donc, comme je suis un gros consommateur de rap, mais pas que. Voilà, je sais que dans ton podcast, tu aimes parler de tous les styles.
Oui.
Bah sache que je suis amateur de tous les styles, moi.
On va voir
mais,
ça.
Ok, merci. J'avais pas dû le dire au début. Non. Quand j'ai réfléchi comme ça, il y a une punchline qui est horrible, mais elle m'a tellement marqué. En fait, je vais la citer parce qu'elle arrive, vraiment, j'avais 13-14 ans, j'ai l'impression. Elle m'a un peu défini. C'est Booba dans Douleur ébène, Couleur ébène. Il fait un jeu de mots, couleur ébène, douleur ébène. Couleur ébène, du coup, qui dit « Si t'as pas de raison de vivre, trouve une raison de crever. »
Ouais, putain.
Et il laisse un silence, l'instru. Toi, tu réfléchis dans le silence en mode « Ah, ok. » Mais en vrai, moi, j'ai trouvé ça hyper motivant, tu vois.
Ouais.
Genre, ça m'a motivé de ouf. Je l'ai vu dans le côté positif. Je pense qu'il y a un petit pourcentage qui s'est suicidé après l'écoute du son.
Clair.
Mais il y a un autre pourcentage qui s'est peut-être dit, ah, ça, let's go, quoi.
C'est peut-être plus un truc pour ses ennemis, genre, ouais, ça sert à rien.
Ouais, de toute façon, c'est toujours ça.
Ouais, c'est toujours ça.
Mais comme moi, j'ai pas beaucoup d'ennemis,
c'est vraiment, genre, allez, on se motive, les gars.
Pour pouvoir relate, j'ai besoin d'imaginer pas des ennemis, sinon, j'y arrive pas, quoi.
Du coup,
j'ai pensé à ça quand tu m'as dit ça.
C'est dans quelle chanson, pardon ?
C'est dans Couleur ébène, qui est un morceau
Couleur
un peu rock de Booba. Ouais. Un peu Johnny de Booba.
Ouais,
je te laisserai écouter, ouais, je te jure.
La guitare
électrique et tout. Ouais, ouais.
Allez, très bien, bah, j'écouterai ça. Alors, pour toi, Anis, j'ai choisi une chanson. Justement,
ouais.
Tu disais, j'aime tous les styles et pas que. Et j'ai capté que. Oh, déjà, j'avais envie d'interroger sur ce texte parce que j'aime bien me lancer des défis, comme je l'avais fait sur d'autres trucs, où il y a des textes où tu te dis, je vais trouver des questions là-dedans.
Okay.
Et franchement, j'en ai trouvé, donc ça va.
Oui, c'est un challenge quand même. Hein.
Tu parles de rap et tout, d'accord.
Ouais.
Mais t'as aussi un cœur tendre puisque t'adores
ouais.
le R&B.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Mais t'es un mec du R&B,
ouais.
mais t'es entre les deux.
Ouais.
Il y a une chanson qui parle de ça.
Ok.
Qui s'appelle R&B de rue. De
parfait,
Matt Houston.
Parfait.
Qui s'appelait
ouais.
Matt après.
Ouais.
Est-ce que t'aimes cette chanson ?
Ouais, j'adore cette chanson.
Et ben voilà. Et ben j'ai choisi ça pour t'interviewer.
Incroyable.
Matt Houston, R&B de rue. Est-ce que t'avais le single ?
Mais je comprends la moitié des paroles.
Bah oui, bah justement. Mais je les ai regardées, j'étais là. Ah, il dit ça.
Parce que quand c'est sorti, j'étais au collège, je sais pas. En tout cas, j'étais jeune.
Ouais.
Je parlais pas si bien anglais. Dedans, il y a des anglicismes.
Ouais.
À un moment, je sais, il dit j'ai mon Ralph Rider. je captais pas ce qu'il disait, franchement. Non, qu'est-ce qu'il raconte?
Mais franchement, même quand tu lis les paroles, tu peux réécouter, tu fais oui, d'accord, il dit neuf. Il le dit mal.
Beaucoup d'anglicisme, en fait. Mais beaucoup j'ai buté ce morceau. Je me souviens qu'il était premier du Hit Machine.
Ouais, ouais, il était très chaud.
Donc, il avait bien tourné dans mon
et
école.
Il y avait un conflit entre quand Matt Pokora il est arrivé, il avait pas le droit de s'appeler Matt.
Ouais, ouais, bah après,
parce
justement,
que Matt Houston, il a dit, mais non, Matt, c'est moi, Matt.
Bah, ça a rythmé la carrière de Matt Houston jusqu'à maintenant, qui est devenu un petit peu un mec aigri, tu vois, du game. Et c'est vrai qu'à l'époque, il avait critiqué, il est revenu avec un album qui a moins marché en 2010, il s'appelait Papa et Back.
Oui, Papa et Back, mais c'est pas là-dessus qu'il y avait Faut pas oublier.
C'est un peu après ça, mais je crois que c'est pas loin, t'as raison. Okay. Non, dans Papa et Back, il y a un morceau qui s'appelle Cunilingus, si tu veux.
Oui.
Et vraiment, il explique dans le détail.
Et de quoi il parle?
Vraiment, c'est tellement précis. C'est Michel Simès qui fait qui fait du R&B.
Ok. Bon, t'aimes ce morceau?
Ouais, j'aime ce morceau.
Bon, bah, je suis bien tombé. Alors, écoute, la première parole.
Ouais.
Bon, déjà, dans la première parole, il y a un mot que j'ai pas le droit de dire.
Okay.
Je vais dire on va juste dire N à chaque fois, ok?
Ok.
Oh, N-less.
Ouais.
Depuis que j'ai fait bouger tes fesses.
Ouais.
Alors, première question qui se rapporte à ces paroles. Est-ce que tu bouges beaucoup? Est-ce que tu bouges beaucoup? Tu fais du sport? Comment ça se passe?
Ouais, moi, je suis très sportif malgré que j'ai des hanches larges.
Ouais.
C'est juste que pour rassurer les gens, je mange très mal, donc c'est pour ça que j'ai une carrure aussi ronde, mais si je faisais pas de sport, alors je pense que je serais obèse, tu vois.
Okay.
Parce que du coup j'ai une vieille hygiène de vie, mais je fais quand même beaucoup de sport, quoi, au moins 2-3 fois par semaine.
Ah ouais?
Ah ouais, je suis un ouf.
Tu fais quoi? Tu fais du foot?
Ouais, je fais du foot et du basket entre potes, quoi. Tu sais, les trucs que tu payes là, que tu dois louer le terrain,
mais
c'est pas du tout rentable.
Je trouve que t'as la je sais pas, bon, les autres ils ont le droit de le faire, mais t'as l'élégance de ne pas t'inventer sur les réseaux. Tu sais, de pas faire genre, ouais, ou le collègue qui voit la salle, ou genre, ouais, encore au foot, tu sais, tu te prends photo transpireux et
où
tout.
Les gens, ils mettent le score, genre,
ouais, ouais.
12-8 aujourd'hui, désolé les gars. Tu te dis, ouais, mais bon, c'est la réalité d'un lundi, quoi.
Ok, donc ça fait longtemps que tu fais du sport?
Ouais, ça fait depuis que, tu sais, après le lycée, je faisais du sport à l'époque, je faisais du handball.
Ok.
Je suis pas très fier de ça parce que j'ai grandi dans le 9-3, c'était pas cool.
C'était pas cool de faire du handball.
C'était pas cool et en plus j'étais bon, hein, mais je savais pas à qui en parler, quoi. Parce que tout le monde ne vivait que par le foot. Ouais. Donc je faisais du handball, mais dis-toi, dans mon équipe de handball, c'était que des gars qui voulaient faire du foot.
Mais attends, et pourquoi t'as pas choisi foot?
Parce qu'on n'était pas assez fort. Et genre, en fait, moi, dans mon club, le Bourget, c'était un bête de club pour les jeunes. Donc c'est-à-dire, il y avait 3 équipes, même dans le niveau 3, j'avais pas le niveau. Donc c'était vraiment les mecs forts. Et les autres au handball.
Ah ouais?
Ouais.
Et du coup, t'as fait du handball
et
par dépit.
On était tous à faire du handball par dépit. Et des fois, le coach, quand il voyait qu'on s'ennuyait, il disait: bon, allez, on fait un foot. On était contents.
Ah, t'avais même pas d'aspiration de devenir handballeur. C'était vraiment
c'est
le
triste. Hein. Ouais, c'est triste. Alors que le handball, c'est un bête de sport. Enfin, je tiens à remettre ces lettres de noblesse.
Évidemment.
Un des sports les plus titrés français. Donc,
T'es un gars qui se bouge quand même.
Ouais, j'essaye, ouais.
Pas mal.
J'essaye.
Mais alors. Du coup, oui, la question après, c'était évidemment, tu aimes le sport, mais c'est quoi l'activité que tu pratiques depuis le plus longtemps?
En sport?
Bah, en activité, hein. Ça peut être tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, c'est depuis que j'ai fait bouger tes fesses, mais c'est quoi l'activité que tu pratiques depuis?
Non, mais après, pour aller plus proche des paroles, moi, j'adore aussi danser.
C'est ce que j'allais te poser juste après.
Bah oui, c'est vrai.
On va le poser avant, alors.
Okay.
T'adores danser?
Ouais, j'adore danser. Ça veut dire que moi, je peux faire des soirées où je fais que danser, quoi. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé à boire de l'alcool un peu tard.
Ouais.
Donc, j'ai
comme
eu.
Bah
moi je pense que j'avais 23-24.
Mais tu vois, alors par contre j'allais réécouter de ce qu'on avait dit avec Mehdi.
Ouais.
J'ai envie de dire aux gens qui écoutent, il n'y a pas d'âge tard ou il n'y a pas d'âge, en fait.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Là on est fou de dire ça, genre
mais
j'ai commencé à boire l'alcool à 23 ans, mais alors?
Ouais, mais, ça prouve qu'il y a une pression un peu absurde.
Il n'y a, pas de pression, ne buvez pas, buvez, faites ce que vous voulez.
Ouais, ouais. Après moi j'avais une pression dans l'autre sens, donc pour moi j'ai bu tôt par rapport au fait d'aller en enfer en tant que.
Oui.
J'aurais pu tenir encore.
Ah oui. Peut-être que t'avais la pression inversée.
Ouais, c'est ça.
Oui, d'accord.
Donc moi j'ai bu très tôt.
Ah oui.
Non, et c'est vrai que du coup j'ai eu toute mon adolescence, adolescence, début de vingtaine, où je faisais des soirées sans alcool, tu vois.
Ouais.
Où j'allais en boîte. En plus, tu sais, il fallait arriver tôt en boîte pour que ça soit pas cher. Donc t'arrives hyper tôt.
Il y a personne.
Tu sais, il y avait genre 21h, c'est gratuit, je sais pas quoi. Donc moi j'allais tôt comme ça.
Boîte à 21h, c'est relou.
Je te jure, mec, c'était ça. Et t'avais genre, c'était moins cher si tu viens avant et tout. Et comme j'habitais dans le 93, il fallait que je reste jusqu'à la fin pour les métros. Donc je faisais des fois des 21h, 4h30, mec.
Wow.
Et je me disais, des trucs pourris, genre, tu sais, des trucs généralistes.
Métropolis, pas du tout.
Non, c'était trop loin, ça.
Trop loin.
Mais j'aurais kiffé, quand quand c'était la hype. Moi, j'étais dedans. Je me disais, je rêve d'y aller un jour. Et après, ça s'est effondré.
Et t'as pas le nom de la boîte ?
Je crois que j'allais à un truc qui était vers d'Enfer Rochereau. Ça s'appelait le Backup, je crois.
Ah, comme... bien sûr.
Ah ouais, c'est
le connu. Backup, ça existe encore.
Ok, bah j'allais là-bas. C'était très généraliste, tu vois, en tout cas
le
à ce moment-là.
Backup. Attends, mais le Backup, c'est pas du. Ah non.
Oui, c'est vers là-bas, ouais. Du rock, non ?
Duplex, non ?
Peut-être, ouais. En tout cas, c'est loin de chez moi.
Ouais, ouais. Ah oui, d'accord.
Et du coup, ouais, j'allais là-bas beaucoup parce que c'était gratuit, c'était arrivé avant 22h, je crois.
Ah, waouh.
Wow. On ouais, allait en équipe.
Pour le coup, c'était vraiment étudiant lycéen, quoi.
Ouais, c'était ça. Bah, j'étais dans ce stage-là.
Oui, oui,
et
oui.
C'était aussi très généraliste, tu vois.
Ouais.
Et je me souviens qu'il y avait, tu sais, un set de hip-hop de 4 sons. C'était toujours les mêmes. Et dès qu'ils arrivaient, on était en mode ça nous, on se levait et tout. Et c'était du coup N-Word in Paris. C'était Dr. Dre, Still Dre. Et aussi Terror Squad, Lean Back.
Oui, bien
Lean
sûr. Back.
Vraiment le son de rap de la France.
Bien sûr, Lean
Je pense
Back.
Que Fat Joe et tout, ils savent pas qu'en France, ce son, ça tue. Ça, toutes les boîtes de province et tout.
Bien sûr.
Lean Back. Du coup, c'est trois sons. Et après, c'était fini. Ils remettaient Calvin Harris. Et on s'ambiançait.
Ok. Ta petite parenthèse sur ces trois sons.
Ouais.
Est-ce qu'on est d'accord que Still Dre, bon, on a marre d'écouter.
Ouais, bah, la faute à ce set hein, qui passait un peu partout.
Tu vois, sur le stop Still Dre, par exemple, la dernière fois, on parlait de ça avec Tristan Lopin, des chansons qu'on en a marre d'écouter quand elles passent en boîte, on fait « Oh !» Et je pense aussi à In The Club de 50 Cent, tu vois, où t'es là « Oui, oui, bon, allez.
» On a compris.
Ouais, on a compris.
Non, mais les pires, pour moi, mais après, peut-être c'est un cycle, c'est toute la période Dancefloor, là. On a trop du mal à réécouter ça, genre LMFAO et tout.
Ah oui, non.
Mais c'est dur à réécouter, genre. Mais avant, c'était que ça. Ouais. Par contre, que le monde avant le Covid et tout, c'était on va danser dance floor. Genre, tous les sons, David Guetta, Usher, tout le monde voulait faire du dance. Madonna, elle est revenue en mode dance floor.
Ouais, bien sûr.
Alors que c'est la vie d'une minorité des gens. Il y a une bonne partie du monde qui
même
est
même
pas...
après le Covid. Beyoncé, elle est revenue avec un peu avec ça aussi, tu vois.
Oui, oui, mais
avant
pas,
son truc
tu
de
vois
country,
pas autant dance floor.
Un peu house, quoi.
Tu vois, pas en mode.
Ouais, oui, oui. Pas grosse turbine.
Avec des drops et tout. À un moment, on avait que ça, quoi. On kiffait. On disait, la vie, elle est belle, quoi. La vie, c'est les boîtes de nuit.
La vie, c'est les boîtes de nuit. Pas du tout. Mais du coup, t'as jamais voulu faire de la danse, je veux dire, prendre des cours de danse ?
Bah si, j'aurais dû en vrai, si.
De
franchement, des fois je le fais, mais tu sais, trop tard quoi. Quand je suis allé à New York, je me suis inscrit à un cours de danse.
Salsa.
Mais tu sais, pour non, débutant en mode, on juge pas les gens, tout ça, que pour débutants, nanana et tout. Et genre, mais j'ai jamais raconté ça.
Je suis allé à ce truc
tout seul, pour que mes potes, ils sont allés faire les fripes, les trucs normaux quoi.
Ah, tu l'as dit à tes potes ?
Ouais, je leur ai dit, ils savent que je suis chelou, tu vois. Ils ont dit, on te follow pas quoi. Bon après, on s'attrape ce soir. Et du coup, je suis allé tout dans le centre de New York et tout, de Manhattan. Et c'était un truc où, genre, l'idée c'est pas de juger les gens s'il y a que des débutants et tout. Et du coup, en fait, la prof, elle mettait genre un son et on passait chacun notre tour tout seul. Enfin, je savais pas que ça allait être ça, tu vois. Tout seul au milieu. Et elle dit, on doit pas juger les gens et vous vous lâchez, vous donnez tout. Et franchement, j'ai kiffé ça.
Ah ouais ?
Je suis allé, je me suis lâché comme ça. Enfin, plus personne me juge. Qu'est-ce qu'il y a ?
Mais c'était quelle musique ?
C'était un truc que je connais même pas, mec.
Mais
c'était un truc.
C'était un truc hip-hop ou un truc.
Non, c'était un truc. C'était pas. C'était genre ABBA, tu vois.
Okay.
Un ABBA pas connu, quoi. Que j'ai pas reconnu. Et genre, je me lâchais là-dessus en mode. Et tout. Ouais,
devant des gens qui
bravo
parlent.
Anis, bravo, merci, on applaudit Anis.
Ah, c'est trop bizarre.
Allez, maintenant c'est à toi
ça,
d'y aller.
Un truc d'entreprise pour,
bah, c'était un peu ça,
pour lâcher la pression.
C'était un peu ça. Donc ouais, donc des fois, quand j'ai le temps et que je peux faire des activités cheloues comme ça, je le fais. Mais ouais, j'aurais aimé faire de la danse. Ouais,
peut-être des moves de danse en soirée où genre, tu sais faire le robot, genre truc.
Non, j'ai des moves de... Non, pas trop le moonwalk, mais j'ai des moves, ouais, je m'en rappelle plus là, que des fois j'apprends aux gens. Les trucs de Michael Jackson, je sais bien faire à part le moonwalk. Genre là, je te montre là, mais genre... Mais ça, il est facile à apprendre, des fois je l'apprends
c'est
aux gens.
C'est un truc avec les pieds et les talons sur le sol, c'est impossible à décrire.
Ouais,
mais...
C'est vrai qu'on peut pas,
on peut pas
en
décrire.
Audio, c'est compliqué. Et non, moi je suis plus un gars, j'aime bien vibrer, tu vois.
Mm.
Être en rythme déjà, les gens ils se mettent la pression, ils pensent qu'il faut faire des pas de danse.
Oui, non.
Mais t'as jamais l'occasion de... de caler un pas de danse en
oui,
fait.
Oui. Ou alors il y a un cercle et tu passes au milieu.
Ouais,
là.
Voilà, mais bon, c'est très rare. Si t'attends toute la soirée pour ça, tu vas passer un mauvais moment. Non, moi j'aime bien plutôt être vibé en
mais
rythme.
Mais de toute façon, je trouve que dans un club, les mecs qui veulent montrer qu'ils savent danser,
c'est
toujours
relou.
Un peu blaireau.
Moi je trouve que c'est relou.
C'est,
ça.
C'est comme les gens qui savent chanter et qui chantent Joyeux anniversaire en faisant des vibes. C'est genre, non, faites le normal, vas-y, on est tous normaux.
Mais moi j'avoue, je suis anti-cercle. Hein. Quand il y a un cercle, je suis en mode non, mais non, tout le monde sait danser. Pourquoi il y a une hiérarchie de genre ceux qui font le cercle ? C'est relou, tu vois.
Oui, c'est clair.
En général, c'est relou, ouais.
Je suis d'accord. Du coup, t'es quand même un mec qui va danser en boîte.
Ouais, ouais.
Tu restes pas à table trop.
Non, non, justement, je fais, limite, je fais que ça. c'est les autres trucs, je connais moins.
Et t'as pas besoin d'être bourré pour le faire.
Bah, c'est ça. C'est vrai, j'ai pris l'habitude, ouais.
Ok, très bien. Eh bien, écoute, donc c'est ça. Bon, on dirait que l'activité que tu pratiques le plus longtemps, bon, bah, c'est à peu près ça, quoi, la danse.
Ouais, je pense, danse. Et foot aussi, voilà, foot. Je vais pas mentir. J'ai grandi avec le foot. À fond le foot, ouais.
La branlette, pas du tout, quoi. Non, je rigole.
Un peu après.
Un peu après le foot. Ok. Bon, deuxième parole. J'ai peur que le quartier me délaisse. Yo, les gars. C'est écrit entre parenthèses. Yo, les gars. Alors, question un peu plus deep.
Ouais,
est-ce que t'es attaché à tes origines?
Ouais, ouais, à fond. Mais même la phrase, là, elle me parle de ouf. J'ai peur que le quartier me délaisse parce que c'est un vrai sujet, tu vois, sur le côté, genre, s'embourgeoiser, s'éloigner de ses origines, ses trucs.
Toi, t'es né où, toi?
Moi, je suis né à Paris, en vrai.
Okay. Ah oui,
à Paris 13e. Mais j'ai vécu un mois. Et après, je suis parti dans le 93, là où ma famille a toujours vécu,
ouais.
Dans la ville du Bourget. On a un aéroport.
Ouais, bien sûr.
Et on est collé à la ville de la Courneuve, qui est un peu plus connue. C'est là où j'ai fait mon lycée et je suis allé chercher... la street cred,
ouais, okay.
Parce qu'au Bourget, il n'y en avait pas trop. Et non, ouais, moi, je suis très famille, très, tu vois, genre...
Et toi, t'es attaché à ton quartier d'enfance, ce genre de truc.
Ouais,
t'es
et puis même, enfin, tu sais, c'est des endroits très codifiés, avec un peu des injonctions de virilité, de trucs, etc. et tout. Moi, j'ai appris à les déconstruire, mais il y a aussi des trucs que j'aime bien dedans, tu vois, il y a des trucs dont je suis fier, il y a des trucs qu'on a dans le 9-3 dont je suis fier, donc j'ai pas trop envie de me rogner, tu vois, on est quand même un département hyper mélangé.
Ouais.
Les gens, ils sous-estiment à quel point le 9-3 s'est mélangé. Déjà, c'est le plus petit département de France, déjà, les gens, ils savent pas.
Okay.
Ou le deuxième, je sais plus, mais en tout cas, c'est dans les plus petits départements. Et c'est hyper mélangé, genre, il y a une grosse communauté de métal dans le 9-3, tu vois.
Ouais.
Genre, il y a grave des concerts de métal, etc. et tout. Les gens, ils se rendent pas compte de toute la diversité qu'on
oui,
a quand on est dans le 9-3, tu vois.
Mais c'est tout, c'est très 9-3, c'est connoté cité
ouais.
Rap et voilà quoi.
Mais après, tu vois, il y a des endroits où malheureusement, c'est vrai, où genre la cité, elle est un peu isolée et du coup, tu sais, t'as rien pour aller autre part et tout. Nous, le 9-3, enfin, tu sais, même genre la Japan Expo, c'est chez nous. Genre,
ouais.
Le nombre de personnes qui, moi, c'est marrant la dernière fois. Je trouve ça résume bien le truc quand je voulais aller chez ma famille qui est à Sevran et c'était le jour de la Japan Expo. Et genre, je vois une meuf sortir de sa cité, d'un bâtiment de cité, en cosplay, mec. Vraiment, vraiment cosplay de fou malade, cheveux bleus et tout, une petite Renoir en mode, allez. Et elle, c'est une station pour aller à la Japan Expo, tu vois.
Ouais,
donc
ouais,
on
ouais.
pense aux gens qui viennent de toute la France.
Oui, c'est clair.
Mais il y en a aussi, genre, ils sont juste à côté, ils sont fiers d'avoir la Japan Expo et pouvoir foutre un katana et se balader avec dans la cité et tout. Donc, moi, ouais, je suis assez fier de ce genre, ce mélange, cette mixité et tout. Et des fois, c'est vrai que c'est des dilemmes que t'as, mais je pense comme tout le monde. Hein. Genre, tu vois, j'ai peur que le quartier me délaisse. Des fois, je sais pas, tu dois bosser avec telle marque ou tu dois bosser avec telle personne, est-ce que c'est pas un peu se vendre, est-ce que c'est pas un peu se renier?
Mais parce que toi, t'aurais encore des relations qui pourraient te le dire, ça? Genre, tu vois des potes d'enfance qui diraient...
C'est ça qui est fou, c'est que c'est un truc que tu t'inventes un peu,
oui.
tu vois.
Parce que peut-être que c'est content pour toi.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ça fait partie d'une certaine éducation ou de... Ça fait partie de moi, tu vois. C'est des réflexions que je me pose tout le temps. Et j'essaye de garder le côté sain du truc, tu vois. Je suis pas en train de me dire, ah non, vas-y, j'ai pas envie d'avoir une femmelette, tu vois. C'est plus, je me dis, attends, est-ce que là, je suis encore en train d'être dans mon ADN? Est-ce que je suis encore en train de respecter ce que je suis et tout? Et quand j'ai entendu la phrase, j'ai peur que le quartier me délaisse, j'ai pensé à ça, tu vois.
Ouais, mais je comprends. Mais du coup, quand tu disais donc tes origines, c'est bon, t'es né au Bourget, etc.
Ouais.
Les origines de ta famille, c'est...
Moi, je suis algérien-marocain.
Algérien-marocain.
Donc
et
le métissage le plus à chier du monde. Bah... Aucune saveur.
Aucune saveur. Non, parce que c'est ce que tu dis, parce que tu fais aussi du stand-up depuis pas si longtemps que ça, mais depuis pas longtemps. Et ce que tu dis sur scène, à un moment, c'est une phrase qui dit en fait, c'est les gens qui me rappellent que je suis arabe,
j'y pense pas,
etc. Donc c'est ça. Est-ce que t'es... Du coup, est-ce que ces origines-là, ça a une importance particulière ou c'est un truc que tu t'en fous?
Moi, je trouve pas ça spécialement important, mais le fait que ça soit important dans notre société ou qu'on me le renvoie,
oui, renvoie
de manière en général négative, en tout cas, peut-être pas directement moi, mais ma communauté, fait que je suis obligé de le conscientiser. Donc, je peux pas faire comme si ça n'existe pas. Donc, le fait est que, comme c'est là, c'est dans l'air du temps, soit j'en fais quelque chose. Est-ce que je décide de m'en foutre? Mais j'ai conscientisé que ça existe. Ou est-ce que je décide de l'embraser, d'en faire quelque chose, mais j'ai conscientisé que ça existe, tu vois. Moi, je trouve le risque, c'est de faire genre ça n'existe pas, tu vois.
Oui.
Alors qu'en fait, c'est là. Tu vois. Moi, je te donne un exemple. À chaque fois, j'ai un pote qui est métisse et on faisait du théâtre. Et notre prof de théâtre, il lui a dit un jour, quand tu vas rentrer dans la salle, le jury des écoles de théâtre va se dire « Ah, c'est cool qu'il y ait un noir ». Et lui, il a dit « Pardon ?» Et il s'est embrouillé avec le prof. Ensuite, le cours, il se finit. Il me dit, t'as vu ce qu'il m'a dit? Je lui ai dit, bah, pour moi, il a raison. Je lui ai dit, bah, maintenant, ça, t'en fais ce que tu veux, tu vois. C'est-à-dire que dans la société, t'es un noir, tu vois.
Oui.
C'est pas de ta faute. T'as le droit de t'en foutre. Mais tu peux pas faire genre ça existe pas, parce que sinon, tu vas tomber trop, tu vois.
Et surtout, là où t'as raison, c'est que la phrase ah, c'est cool qu'il y ait un noir, c'est. Mine de rien, une phrase positive.
Ouais, mais je pense que tu vois, quand tu veux être acteur, tu te dis je peux être tout le monde, je peux jouer tout le monde. Je comprends ce qu'il voulait dire, tu vois.
Oui, oui.
Mais je pense que c'est encore plus dangereux de se dire mais moi je suis pas du tout ça. Alors qu'en fait, je pense que tu prends ce que t'es et fais-en quelque chose, tu vois. T'as le droit de. Et quand je dis ça, ce que tu peux en faire, c'est t'en foutre.
Oui, voilà,
mais
oui,
du coup, au moins tu sais déjà, tu vois, t'as déjà l'appréhension de ce qu'on va dire. Alors je trouve, il y en a, ils tombent de trop quand ils disent mais je ne suis pas du tout ça.
Oui.
J'ai pas envie de me définir qu'avec ça. Ouais, mais c'est. Le monde dans lequel on est, il nous laisse pas décider, tu vois.
Oui, et si on revient à ton stand-up, ça a aiguillé certaines de tes blagues aussi.
Bah oui, à fond.
Tu vois.
Puis parce que, et puis moi, ce qui est marrant, c'est que, enfin, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Comme j'ai grandi dans un milieu très mixte, j'avais jamais eu l'occasion d'y réfléchir. Donc en fait, j'étais aussi peut-être dans une candeur, une bulle de naïveté, qui fait quand je suis arrivé à Paris et que je me suis mélangé, je me suis dit ah ouais, je suis arabe, ok. Non.
Ah mais d'accord.
Dis
putain,
voilà,
mais c'est
non,
ça.
J'avais arabe et tout. Et du coup, ça m'a donné aussi de la force, tu vois. Ça m'a donné un recul sur le truc qui était cool.
Ok, je capte. J'ai peur que le quartier me délaisse. Est-ce que ça rejoint un peu ce que tu disais, t'as des amis d'enfance que t'as gardé depuis.
Ouais.
Mais est-ce que plus globalement, bon, t'aurais une peur de pas de les décevoir, mais qui tique parfois, où ils se disent, oh, il a changé ou quoi, ça c'est un truc qui te reste en tête. Tu serais pas changé par rapport à eux? Ou est-ce que, plus globalement, t'as une peur de décevoir?
Franchement, pas trop, moi.
Okay.
Parce que justement, comme je suis un peu une anomalie, en tout cas dans les milieux dont on parle, là, et bah, faut que j'y aille. Enfin, il a fallu que j'y aille à fond, tu vois.
Ouais.
Il fallait que je croie en moi. Donc, j'ai pas trop reposé sur les autres à ce moment-là, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, tu l'as évoqué, les gens qui me voient faire ça, ils sont en mode, c'était obligé que tu fasses ça. C'était obligé. Nous, on savait. En fait, c'est là que tu te rends compte que les gens, ils te regardent avec un œil beaucoup plus bienveillant que tu penses, tu vois. Et du coup, non, je suis pas trop en train de penser au regard des autres. J'ai jamais trop eu ça, tu vois. Après, je pense aussi, ça c'est, je le dis un peu partout là dans tous les podcasts, mais je trouve que c'est important. C'est que moi, je suis le premier bébé de ma famille. J'ai été hyper aimé, tu vois. Ma mère, elle m'a eu à 18 piges. Donc, tu vois, il y a toute une famille qui est en mode « Oh, un bébé qui sort de nulle part
!»
Et genre, je crois ça m'a donné trop confiance. Et du coup, limite, c'était l'inverse pour moi. C'est-à-dire que quand je subissais soit le racisme, ou à l'école, j'étais nul à l'école, je me disais « Mais non, moi, je suis le meilleur bébé du monde. » On vient de me dire à la maison que j'étais trop beau, que j'étais trop fort. Et j'ai l'impression que ça m'a bien boosté et que ça m'a permis d'avoir confiance dans des trucs. Là où je vois qu'il y a plein de gens, mais que ça soit des banlieusards ou pas, tu sais, ils ne sentent pas légitimes à être artistes et tout, parce que on leur a pas donné les clés, on leur a pas donné. Moi, on m'a rien donné, on m'a juste dit tout ce que tu vas faire, t'es mortel, mec.
Ouais, ouais, bah c'est génial.
Et pour moi, ça, c'est une des bêtes de clés, en fait, tu vois. Ça joue même plus, je crois, que qu'autre chose, quoi, tu vois. Mais après, c'est mieux d'avoir ton père qui est réalisateur. Ça, c'est quand même meilleur truc.
Ça peut aider. Mais non, mais c'est plus globalement, pas forcément avec les gens que tu connais, mais est-ce que tu es quand même créateur de contenu, tu proposes des contenus, tu proposes des courts-métrages, etc. Ou est-ce que tu penses à ce qu'on vont en penser les gens, des commentaires, etc., etc. Tu penses à ce que va penser ta communauté?
Ah, bah alors ça, c'est différent. Parce que pour moi, ça, c'est un peu le boulot d'un artiste, tu vois. Mais toute proportion gardée, tu vois. L'idée, c'est de se dire. Moi, en fait, en tout cas, j'ai une vision de ma création. Comment je peux la rendre la plus accessible possible? Moi, pour moi, c'est une bonne question, ça. Parce que j'ai pas envie que ça soit centré sur moi, j'ai pas envie que ça soit niché et tout. Maintenant, quand je dis ça, c'est pas j'ai envie que ça soit forcément mainstream ou quoi. C'est juste, je me dis, j'ai envie qu'un truc qui est hyper personnel, il soit accessible à des gens qui sont pas dans ma vie, tu vois. Donc ça, ouais, j'avoue, c'est un truc auquel je réfléchis. Et du coup... ça peut m'arriver de suivre les commentaires, les trucs par rapport à ça, tu vois, d'essayer de comprendre à quel endroit j'ai été peut-être trop fermé, à quel endroit j'ai pas donné l'accessibilité aux gens, tu vois. Et voilà, tu vois, on fait tous les deux de la scène, bah c'est pareil, tu vois, c'est que des fois j'ai des sujets, en fait, ils sont tellement personnels, j'ai envie d'en parler, mais il faut que les gens ils aient une porte d'entrée, il faut qu'ils aient une métaphore, ils aient un truc, bah c'est la même chose, tu vois. Je crois que quand tu fais des vidéos, quand tu fais même un film et tout, c'est la même chose, tu peux pas juste être hyper niché sur toi-même et tout, parce que, bah après en général, tu peux avoir des prix à Cannes, mais c'est pas ce que je recherche, tu vois. L'idée c'est de rendre ça le plus accessible. Je pense que c'est des bonnes réflexions, tu vois.
Mais tu t'as pas de haters sur les réseaux, toi? Pas vraiment?
Non, pas trop. Après, je suis pas... je trouve, hein, je suis pas assez connu pour ça. Tu vois, non, mais en vrai, de vrai, je crois qu'il y a un moment, tu deviens tel, quand t'es tellement connu, c'est obligé. Tu
ouais,
vois
ce que je veux dire ?
Ouais, c'est obligé en fait. Tu peux pas plaire à tout le monde et tout. Moi, au niveau que je suis, j'adore parce que les gens qui me connaissent, ils m'adorent, genre.
Ouais.
Et les autres, ils s'en tapent, quoi. Okay. Mais genre, à chaque fois, les gens, quand ils. Ou, comme moi, j'ai fait plein de trucs, des fois, il y a des gens, ils connaissent un truc que j'ai fait.
Ouais.
Et ça, j'aime bien, tu vois, c'est pas moi. Des fois, ils connaissent un truc que j'ai fait et ils l'adorent. Ils disent, ah, mais t'es le gars qui a fait ça.
Oui.
J'adore ce truc. Bah tant mieux, ça me va.
Ouais,
je préfère que ça soit centré sur ce que je crée plutôt que sur ma personne, tu vois. C'est même plus facile en fait, tu vois. Après, quand t'as besoin d'ego et tout, c'est sûr. Mais comme moi, c'est pas un truc que je cherche. Je suis beaucoup plus boosté quand on me dit t'as créé ce truc, je le regarde avec mes enfants, c'est incroyable, c'est mortel. Ça y est, le boulot est fait. J'ai pas besoin de plus, tu vois.
Peut-être que t'es pas clivant, quoi, là, c'est ça.
Bah on va, je sais pas, je t'ai dit si un jour je deviens plus connu. Là je sais qu'il y a des gens là d'extrême droite là,
ils attendent.
Ils m'attendent en fait. Juste ils me connaissent pas encore mec.
Attends, publie l'extrait où tu parles du rail d'extrême droite là sur Insta.
Non mais tu vois, des fois sur TikTok ça arrive, il y a des trucs que j'ai fait et
ah oui.
Ils ont explosé parce que 70% des gens c'est des fachos et tout dedans, parce que ils sont au taquet et tout et ils commandent beaucoup. Donc merci à eux pour
merci
la force.
Merci à eux, tu fais remonter l'algo, merci à vous.
Mais tu vois, je crois que malheureusement là je donne cet exemple là, mais à partir du moment où t'es hyper mainstream et tout, forcément il y a une tranche de gens qui
te chient,
il y a toujours quelqu'un qui va dire même, mais moi je trouve que c'est ça que j'aime en France, je trouve que c'est un point fort, c'est-à-dire même si t'es hyper gentil et tout, il y a des gens, si t'es hyper connu, ils vont dire vous trouvez pas ça bizarre qu'ils soient hyper gentils?
Oui, bien sûr.
Mais ça c'est mon pays, ça, mec.
Mais j'aime trop,
moi j'adore, moi on se laisse pas faire,
mais
quoi
surtout,
qu'il arrive.
Moi je me dis souvent à propos de ça, tu sais, il y a des gens qui sont objectivement beaucoup trop fort dans leur domaine.
Ouais.
Je te donne un exemple n'importe lequel. Je dis Steven Spielberg.
Mmh.
Bon, t'aimes ou t'aimes pas, mais bon, bah, respect. Faut juste...
ouais,
qu'est-ce que tu vas dire contre sa carrière,
ouais,
quoi.
Ouais.
C'est insurmontable. Il y a toujours des mecs qui vont dire non, ouais, pff, bof. Je me dis, bon, bah, tu sais, du coup, il y aura des haters pour tout le monde, quoi.
Ouais,
au bout d'un
ouais.
moment, enfin, tu vois, c'est, tout est ridicule, quoi. Alors, parole d'après. C'est hip-hop de rue contre R'n'B. Déjà, première question.
Wow.
Hip-hop ou R'n'B? Très, très rapide.
Ah ouais, j'ai pas le choix.
Tu dois regarder un ou deux, un seul.
En vrai, je crois que je vais dire. Plutôt rap, ouais. Parce que en vrai, hip-hop, il y en a qui vont dire le R&B, c'est un sous-genre du hip-hop. Mais je vois ce que Matt Houston voulait
Matt
dire.
Houston, ouais.
Moi, pour moi, je dirais plus rap quand même, en vrai.
Ok, enfin, t'as plus écouté de rap que de R&B.
Je sais pas, en fait, mais, mais je crois que le rap, je pourrais en écouter plus toute ma vie, peut-être. Voilà.
Okay.
Mais c'est juste ça qui fait que ça gagne.
Ok. Et deuxième question à propos de cette parole. T'as jamais voulu être DJ?
Bah, j'ai déjà un peu mixé dans
t'as
ma
mixé,
vie,
okay.
En vrai, mais pas beaucoup de fois. Mais ouais, je kiffe, hein. Moi, en fait, en tout cas, ce que je kiffe le plus dans le fait d'être DJ, moi, malheureusement, tout ce qui est technique et tout, bah, je suis nul. J'ai pas le temps d'apprendre les bêtes de transi et tout. Mais tu vois, j'ai des platines chez moi.
Okay.
Et genre, s'il faut, s'il y a un anniv, moi, je suis un DJ d'anniv, tu vois. S'il y a un anniv et genre, le DJ, il est pas prévu et ça met l'ambiance. Parce que, quoi qu'il arrive, de fait, je le fais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de platine, c'est moi qui.
Okay.
On va dire, Anis, mets du son, prends le hoax et tout.
Oui, parce que j'allais dire, souvent, tu as déjà fait ça en story où tu conseilles des sons.
Ouais,
tu
vois, bah c'est ça.
En fait. Ça
moi, j'avoue, je... en fait, j'arrive bien à capter les moods des gens et tout. J'ai déjà mixé pour le Conservatoire supérieur d'art dramatique national de Paris.
Okay.
Genre, fête de fin d'année, j'ai mixé là-dessus. À un moment, j'ai mis, je sais plus, partenaire particulier. Ils étaient comme des ouf. Et je me suis dit, ah ouais, vous kiffez. J'ai ouvert la porte de tous les trucs que je voulais mettre, genre cargo de nuit, mais
bien sûr,
j'ai dit, ah c'est ça que vous voulez, j'en ai plein, genre je vais en mettre jusqu'à ce que vous en ayez marre et que
bien
vous voulez que je mette
sûr.
Du rap, je veux que ça soit eux qui viennent me voir et disent Anis,
mets
du rap
s'il te plaît. Bien sûr, ok, je vois. Bon bah ouais, mais grave ouvert déjà.
Bah il faut,
bien sûr. Ok, alors c'est N-World Test nous traite de lover mais laisse. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire de toi que t'es un lover?
Ouais, je pense, en vrai, hein. Non, parce
mais
que
ça m'étonne pas du tout.
Non, mais parce que c'est vrai que j'ai un truc très. En fait, moi, c'est juste. C'est simple. Hein. J'ai embrasé tout ce qui est pop culture.
Ouais.
Et c'est vrai que la pop culture voilà, des années 90 et tout, il y avait cette image, mais qu'on est en train de déconstruire à juste titre. Mais du mec romantique qui tient la porte, qui court après la meuf à l'aéroport et tout.
Ouais.
Moi, c'est des trucs que je regardais en mode, moi, je veux faire ça, mec. Je me disais, quand je serai grand, je veux faire ça. Et après, voilà, maintenant, tu te rends compte que c'est bizarre que le mec. Il court, il suit la meuf, il la retrouve à son travail.
Et surtout, quand il court à l'aéroport, il arrive jusque la porte, quoi.
Ouais,
il
n'y
a
ouais.
personne qui l'arrête avant. Genre, alors, il passe pas la fouille.
Ouais,
hein.
C'est ça.
C'est trop bizarre.
Il a pas de billet à acheter,
non.
Rien. Il peut aller direct de l'autre côté. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec ces grandes figures-là et tout. Et quand j'étais plus jeune, je trouvais ça cool.
C'était la question un peu. Est-ce que t'aimes ouais. les comédies romantiques, du coup?
Ouais, bah, je suis très dans ça. Mais je t'ai dit, là, j'apprends à me rendre compte que il y a plein de trucs qui allaient pas dans les comédies romantiques. Que c'est toujours la meuf qui est hyper sentimentale et le mec qui est détaché. Alors, dans la vie, des fois, c'est l'inverse. Ouais,
c'est l'inverse.
C'est souvent même. Du coup, ouais, moi, j'ai toujours, en tout cas, kiffé la figure, en tout cas, du mec bien, tu vois. Mais au-delà même des comédies romantiques, tu vois, moi, quand je fais un jeu vidéo et qu'on peut être les deux, là, genre Red Dead Redemption, je l'ai refait trois fois le jeu, trois fois je suis gentil. Ma meuf, elle me dit, mais tu veux pas voir l'autre fin ? Je dis, mais j'arrive pas, en fait, j'ai pas envie de tuer des gens gratos. J'ai envie d'être gentil.
Je veux être gentil.
Et trois fois, j'ai réessayé, trois fois, j'ai eu la même fin. Il faut que je les appelle pour leur dire, quelle est l'autre fin ? J'arrive pas à la débloquer. Parce qu'en fait, ouais, j'ai grandi avec ces figures un peu, voilà, de films et tout. Et moi, j'avoue, je trouvais ça cool, tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ça aussi maintenant, écrire de la fiction et tout. Ouais. Mais j'ai toujours trouvé ça cool, le héros, le gentil, les bonnes valeurs, le truc. Je me suis toujours dit, mais c'est bien en fait, pourquoi ne pas aimer ça, tu vois.
Oui, c'est vrai, c'est tourné un peu, toujours un peu en ringard, ou ce qu'on dit souvent ici, c'est que
ça,
la gentillesse, c'est souvent tourné en faiblesse, alors que peu du tout.
Bah ouais, moi j'ai toujours trouvé ça classe, quoi.
Et du coup, la question que j'avais après, c'est quoi le truc le plus romantique que t'aies fait?
Déjà, moi, la première meuf que j'ai eue, tu sais, justement, j'ai emmagasiné tous les films. Et dès qu'elle est arrivée dans ma vie, j'ai dit, je vais tout lâcher, frère. Toutes les idées que j'ai, c'est parti et tout. Déjà, la première fois que je me suis mis en couple, en plus, moi, je regardais des dramas coréens à cette époque, mec. Donc, j'étais encore tout plus matrixé par les trucs romantiques. Et la première meuf que j'ai eue, je l'ai vue, en fait... En fait, j'ai flirté avec elle pendant l'été et j'étais un peu un brin ténébreux. Donc, j'ai jamais eu de meuf jusqu'à 18 ans. De 0 à 18 ans, j'étais en mode, non, je me garde. Non, moi, je suis un brin ténébreux. Mais des fois, je voyais des filles un peu quand même, tu vois, je flirtouillais, tu vois. Et là, il y a une meuf avec qui j'ai flirtouillé. Au lycée, je la vois, elle se maque un gars, tu vois. Et là, j'ai première fois de ma vie, je ressens la jalousie, en fait. Je tremble et tout, je deviens ouf. Et je vais la voir d'un coup. Je lui dis, ce soir, rendez-vous sur les quais à Saint-Michel. Pas d'adresse, rien.
Sur les quais.
Je suis allé sur les quais à Saint-Michel.
Non, on n'a pas dit de quel côté.
Même pas de quel côté. On s'est trouvé parce que de toute façon, je me suis mis à la sortie du RER B. Quand tu viens du 9-3, tu vas à ce quai-là. Et elle est venue et après, j'ai été cash. Je lui ai dit, moi, j'ai pas kiffé. En fait, je me rends compte que j'ai des sentiments. Tu sais, j'étais cash comme dans un film, quoi. Mais en fait, j'étais tellement porté par le truc du film que je me disais, au pire, ça fait une bonne scène. Et c'est vrai que j'ai toujours fait ça. Même pour embrasser une fille, tu vois, c'est toujours galère d'embrasser une fille. Mm-hmm. Tu stresses, est-ce qu'elle le veut vraiment? Moi, j'ai toujours fait des punchlines de genre, si je mets le papier dans la poubelle là-bas, t'es obligé de m'embrasser.
Oui.
Des trucs comme ça. Et tu vois, la meuf, elle est en mode, ok. Ah,
tu réfléchis aux scènes de film.
Non, mais voilà, elle se dit, de toute façon, il va pas mettre le papier dans la poubelle. Tu le mets pas, tu l'embrasses quand même. Parce qu'en fait, elle a déjà un peu dit oui, tu vois.
Oui.
Donc l'idée, c'est de créer ce film, ce jeu dans lequel t'es à l'aise, tu vois. Après, attention, il y a une limite. Hein. Je veux pas que les gens ils disent. Ils s'en servent pour forcer les meufs.
Oui,
c'est
clair,
pas du tout ce que je dis. Là, je dis qu'en fait, c'est une meuf que un mec normal aurait embrassé. On était hyper consentants.
Oui,
mais moi, j'ai besoin de rajouter.
Tu crées le petit twist
ouais,
du jeu.
Ouais, j'ai besoin de rajouter un truc de film en mode. Ah, on s'attrape demain. Et du coup, ouais, j'ai fait ça. L'autre truc que j'ai fait une fois, c'est. Oui. Truc classique de mais pareil, c'était mes premières relations. On dirait que là maintenant avec l'âge j'ai vieilli, je fais plus rien, mais mais je préfère citer les trucs avant parce qu'avec ma naïveté je trouve ça marrant. J'ai déjà envoyé des messages en mode tiens, c'est dommage qu'on soit pas ensemble pour ton anniversaire, ce genre de truc, alors que j'étais en train de pédaler comme un ouf jusqu'à chez mon ex, tu vois. Je pédalais, elle disait mais ouais, j'aimerais tellement qu'on se voit et tout. J'ai dit bah ouvre la fenêtre.
Ouais, oui.
Ce genre de truc, tu vois. Oui. Bon, après, faut qu'elle habite au rez-de-chaussée là. Et ouais, j'étais là et moi chez moi, il y a des
sauf
cerises.
Tu es arrivé à vélo, du coup, t'étais transpiré de fou.
Mec, j'ai transpiré et j'avais cueilli v'là les cerises parce qu'elle kiffait les cerises. Je lui ai donné un panier de cerises, mais vraiment, plus jamais je referai ça. Et dedans, il y avait une bague, mec.
Oh, waouh!
J'ai offert une bague à 18 ans, mec, qui est un cadeau qu'on fait quand on se marie, genre. Mais ma mature dit, moi, j'aime bien les bagues et tout. J'ai offert une bague, l'a mise sur un doigt où c'est pas là, on doit mettre les bagues. Parce que du coup, normalement, ça veut dire
sur
qu'on est marié.
Sur un autre pied, bon, ok.
En attendant la vraie bague. Donc, ouais. Du coup, je faisais des trucs comme ça, ouais.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, bah, vrai romantique, hein.
Trop. Il y a un juste milieu dans le monde.
Ouais, faut doser. T'as trop bien, bravo. Eh bien écoute, la parole d'après c'est « On reste solide dans notre business ». Question étant, est-ce que tu es quelqu'un d'obstiné et de persévérant au travail ?
Ouais, à fond. Hein. Après, mais je pense que c'est comme toi, tu vois. On fait des travaux qui sont aussi des passions.
Des travaux, si je peux me permettre.
Ouais, des travaux qui sont aussi des passions, qui sont voilà, des trucs qui prennent beaucoup de temps. Que ça soit, et aussi psychologiquement, tout, on sous-estime, mais... quand mon taf il est fini, il est pas vraiment fini parce que je suis peut-être encore en train d'y réfléchir, je suis en train de réfléchir à d'autres idées, donc que ça soit le week-end ou pas, c'est très dur de mettre des pauses des vraies pauses dans le truc, tu vois, même si on essaye et il faut. Du coup, ouais, j'ai l'impression que, de fait, ça occupe quasiment, je sais pas, 80-90% de mon temps, tu vois. Parce que même des trucs qui sont des pauses, des moments marrants, des fois, c'est le travail aussi, tu vois.
Oui.
Donc, en fait, j'ai l'impression que... Et mais moi, en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à me sentir bien dans ma peau. C'est quand mon travail, il a pris une place monstre dans ma vie, tu vois.
Okay.
Et je te dis ça, c'était même avant l'argent, tu vois. Parce que moi, au début, j'ai commencé, je faisais du théâtre et tout. Et même quand je faisais du théâtre, j'étais hyper épanoui, tu vois. Ça prenait tout mon temps. J'avais pas de blé du tout. Je mangeais de la semoule et tout, mais j'étais hyper épanoui parce que je me disais, tiens, j'ai trouvé un truc. Enfin, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place.
Ta place,
tu vois.
Ouais, ouais.
Mais du coup, pour que ça marche, il faut que ça prenne vraiment beaucoup de temps, je me rends compte. Et du coup, c'est dur, des fois, avec les relations hors travail, tu vois, de faire comprendre ça à ton entourage.
Mais ne serait-ce que pour ce qu'on fait tous les deux en ce moment, le stand-up.
Ouais, c'est des horaires qui n'ont aucun sens.
Et surtout, il faut le faire et refaire.
Mais en même temps, on kiffe, quoi, tu vois. On kiffe, ça nous apporte beaucoup. Moi, je crois que ça me crée vraiment un équilibre, tu vois. Quand je travaille moins et tout, je me sens moins bien. C'est bizarre.
Ouais.
Quand j'ai moins de travail, ou quand je suis... Des fois, c'est moi-même qui me mets dans la merde. Genre, quand je vois que j'ai un peu moins de travail, je relance des projets, je dis à des producteurs, on se rencontre, et je me remets dans la merde.
Oui, bien sûr, mais je comprends. Mais il y a un truc où la chance qu'on a, je dirais, c'est presque que notre travail, c'est nous.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est
dans notre tête, quoi.
C'est développé nous, quoi.
Ouais.
Donc c'est pour ça, tu sais que j'y repensais là, ce week-end on était au Frames Festival ensemble et enfin je vois pas à quel moment, à tous les moments du week-end je me suis dit, t'as la chance qu'on a.
Ouais, bah ouais, faut c'est pas un oublier. Truc de fou. Bah, c'est bien de se
c'est
le dire.
C'est un truc de fou, franchement.
Bah ouais, moi je me le dis tout le temps,
c'est
tu
fou.
Vois. Franchement, je me le dis tout le temps. Et...
Mais
pour ça que peut-être aussi j'en fais trop aussi, tu vois. C'est que j'ai
du coup,
truc de
obstiné,
me dire...
obstiné persévérant, ça veut dire que tu laisses pas de place à la paresse, quoi. T'es pas du tout paresseux, pas flemmard.
Moi, j'ai un côté paresseux dans le sens où je sais que c'est nécessaire. C'est-à-dire que des fois, je me dis, il faut que là tu fasses rien, sinon là t'es en train de surcharger le cerveau. T'es pas en train de bien le faire, donc vas-y, va jouer à FIFA 2 heures.
Ah oui.
T'as le droit de jouer à FIFA pendant 2 heures.
Tu fais pas des siestes, toi?
Bah non, je fais jamais de sieste.
Ah
ouais. Moi, je suis très console, ouais. Trop jeux vidéo depuis que je suis petit. Mais c'est ma bulle, ça me permet d'arrêter de penser au travail, parce que c'est vrai que, comme on l'évoquait, tout peut nous faire penser, tu vois, dans le stand-up, par exemple, tout peut être de la matière, des informations, un film... tout est une matière où tu te dis, ah, ça pourrait être pas mal ça. Et du coup, quand t'as ce cerveau qui est en train de fonctionner, des fois ça peut être épuisant, tu vois. Donc c'est bien de se trouver, t'as raison, les siestes, il y en a, ils marchent. C'est, bah, le sport, c'est bien de se trouver le truc où, genre, au moins t'es sûr que pendant un moment,
tu penses
plus à ça, quoi.
Ouais.
Ça suffit.
Et du coup, la question d'après, c'est, on est solide dans notre business. Est-ce que t'es bon en business?
Je suis à chier, moi. Ah, par contre, je suis horrible, tu vois.
T'es fort pour aller serrer les pinces et dire, moi je fais ça, on se revoit, voilà qu'on se revoit.
Bah, moi, souvent, je laisse faire mon taf, tu vois. C'est pour ça aussi que je disais ça. Genre, que ça soit socialement, businessment parlant, j'aime bien que les gens ils aient vu ce que j'ai fait et c'est plus simple de discuter avec quelqu'un, tu vois.
Oui.
Des fois, tu sens que les gens ils t'approchent et ils savent pas trop qui t'es. Et c'est pas bon, tu vois.
Ouais.
Mais justement, quand t'es un peu connu, des fois, c'est ça. Quand c'est que la notoriété qui parle. Moi, je trouve que c'est pas bon parce qu'il y a des quiproquos. Tu sens que les... Moi, des fois, genre, je suis invité sur des castings ou des trucs comme ça. Je sens que mon agent a bien vendu le truc. Ils savent pas qui je suis. Et il y a des quiproquos, tu vois.
Ouais.
Je dois jouer un rebeu salafiste. On s'est mal compris, tu vois. Je pense pas que je suis le meilleur rôle pour le faire, tu vois. D'ailleurs, je pense que personne n'est le meilleur rôle. C'était peut-être pas une bonne idée d'écrire ce rôle, mais ça, c'est un autre débat. Mais du coup, ouais, moi, je me dis, vas-y, si mon taf, il fait parler, ça te fait ramener des gens, peut-être qui sont, je sais pas, moins puissants, mais qui sont plus proches de toi et avec qui tu vas pouvoir avoir plus d'atomes crochus. Donc souvent, c'est un gain de temps, tu vois. Alors que des fois, aller forcer un peu les gens, tu sais, démarcher et tout, je pense que ça peut te faire grave avancer. J'ai un pote qui est trop bon dans ça. Franchement, je le regarde en soirée, il est tellement fort.
Il y a des gens qui ont ce truc, quoi.
Mais après, tu vois, lui, il doit rattraper en essayant de montrer qui il est, tu vois. Parce qu'il a réussi à séduire quelqu'un, mais la personne est juste séduite par un discours. Mais chacun sa technique, hein, je juge pas du tout. Moi, je préfère que les gens ils se disent, ah, j'ai envie de travailler avec ce gars pour ça, pour ci.
Ouais.
Comme ça, c'est déjà fait, j'ai pas à l'expliquer, j'ai pas à le vendre. Et vas-y, let's go, tu vois.
Ouais, juste ce que tu veux dire. Mais moi, j'avais ce truc quand j'étais musicien, c'était que souvent, il y avait ce. T'arrivais dans des carrés VIP et des trucs machin, et c'est genre, faut aller parler au mec du Printemps de Bourges, ce machin, etc. Et moi, j'étais genre, mais c'est open bar, donc. Non, on fait la fête en fait.
Ouais.
Et du coup, je faisais trop pas ça. Mais du coup, bah, je suis plus musicien, quoi. Tout simplement. Mais bon, écoute, oui, c'est comme ça.
Mais sinon, si on peut dire un conseil aux gens, entourez-vous de gens qui savent le faire. Tu vois,
entourez-vous de gens qui savent le faire.
Ouais, parce que ça, on n'est pas obligé. Enfin, tu vois, on dit toujours, il faut savoir faire ci, il faut savoir faire ça. Moi, je trouve que des fois, s'il y a des trucs, on ne sait pas les faire. Mais là, on parle de business. Mais même moi, tu vois, je fais.
Dur de se vendre. C'est le truc le plus
ouais,
dur.
Ouais. Mais moi, tu vois, par exemple,
regardez comme je suis super. C'est
moi,
trop
je fais pas du tout de montage, quasiment pas. Tu vois, tout ce que je monte, c'est avec mon téléphone. Je sais pas monter avec un ordinateur. J'adore bosser avec des monteurs.
Oui, oui.
Je suis très content de dire. Je ne sais pas faire ça, je veux quelqu'un qui sait le faire,
oui.
Et on va passer un super moment. Ben, si votre lacune, c'est le fait de vous vendre et tout, il y a des gens qui adorent faire ça, qui sont trop motivés dans ça, et essayez de trouver des gens pour le faire pour vous, quoi.
Ouais, c'est vrai. Très bon conseil. Écoute, la suite, c'est... Est-ce que tu connais la suite? Attends, c'était quoi? On reste solide dans notre business. En fait, déjà, tu savais qu'il disait ça dans la chanson?
Non. Moi, j'ai peur quand tu vas me dire c'est quoi mon Rough Rider.
Tous les jours, je le vis, alors j'en parle, je me fous de ce qu'ils disent, ho ho. Ok. Donc tu as un peu répondu tout à l'heure, mais c'est plus un conseil global à l'humanité. Est-ce que tu crois qu'on peut réellement s'en foutre de l'avis des gens? En vrai, non.
Ouais, mais je pense qu'on peut. Non, mais je pense qu'on peut essayer de travailler notre capacité à avoir du recul. Tu vois, c'est ça. Genre, tu peux te dire, ok, ça me touche, mais dans quelle mesure j'ai besoin d'y réfléchir longtemps. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui te vexent.
Non, mais même l'avis des gens, c'est-à-dire que tu pourrais dire, ah, vas-y, aujourd'hui, je sors en slip.
Ah oui. Ok, t'étais dans ça, toi. Mais dis-nous, Guigui, ce que tu veux faire direct. Tout ce podcast pour dire ça.
C'est beaucoup moins philosophique. Je te le dis tout de suite.
Non, mais oui, c'est vrai qu'on est dans.
On peut pas, on n'a pas le droit, on peut pas s'en foutre.
Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il y a des constructions sociales qui. On est dedans. Et c'est vrai que.
Pareil, et dès qu'on voit quelqu'un qui sort un peu du lot, on dit ouais, c'est un marginal, il est chelou.
Ouais, c'est vrai.
Alors qu'en fait, quoi, il parle tout seul, il gueule dans la rue, il chante.
Ouais, mais du coup.
Il chante tout seul dans la rue. On dit, ah, il est bizarre lui.
Ouais, mais du coup, tu mets le doigt sur un truc, c'est bien d'essayer de s'en rappeler, tu vois, des fois, de se dire, attends, là, j'ai pas le droit de parler fort dans le train parce que. Enfin, moi, j'ai entendu, c'est Damso une fois qui a dit ça, il a dit, moi, j'avoue, je sais pas pourquoi mon fils, il devrait pas parler fort dans le train parce que c'est un enfant, il est en train d'apprendre. Le seul fait que je veux qu'il se taise, c'est parce que notre monde, il a été construit de sorte à ce que je sais que ça embête les gens. Tu vois.
Oui.
Bon, après, là, l'exemple, je préfère que les enfants... Calmez-vous, quoi.
Ouais.
J'ai pas envie de foutre la merde. Mais c'est vrai que des fois, c'est des trucs qu'on a oublié de se dire, ah, mais oui, c'est juste nous. Enfin, c'est pas nécessaire. Oui. C'est juste notre construction sociale qui fait que, bah, faut pas être en slip. Faut pas... Mais c'est pas des trucs qui sont mauvais en soi, quoi.
Oui.
C'est pas des trucs qui sont criminels. Être en slip ou un enfant qui part dans la rue, qui part dans le train, c'est pas criminel.
C'est pas criminel.
Mettre
mais...
un enfant en slip dans la rue, ça, c'est criminel.
Oui, ça, non.
Sans qu'il... Surtout si c'est un enfant que vous connaissez pas.
Non, ça, c'est pas possible. Mais oui, tu vois, donc bon, c'est impossible de s'en foutre du regard des gens, on est d'accord. Mais alors, et l'autre question, c'était, tous les jours, je le vis. Donc, est-ce que tu peux me décrire une journée type dans la vie d'Anis? Déjà, réveil à quelle heure?
Moi, pas méga tôt, genre, je pense genre 9h40, 10h, je suis dans les starting blocks.
Ok.
Aussi parce que si tu te réveilles trop tard, t'as loupé des calls et tout.
Ouais, ouais.
Parce que les autres personnes, ils se réveillent plus tôt, donc je dois m'adapter à eux. Mais ouais, 10h, je suis bien, comme ça, je suis pas trop vénère et tout. Souvent, moi, mes journées, j'ai l'impression que j'ai des rendez-vous. J'ai au moins un ou deux rendez-vous. Soit pour aller faire un petit truc créatif, soit pour aller parler avec quelqu'un avec qui on veut faire un truc créatif. Donc là, c'est un exemple. On est en train de faire un podcast, par exemple. Et je peux avoir dans la journée, un moment, on va faire un podcast, un moment, on va faire un tournage, un moment, on va faire ça, et un autre moment où je vais rencontrer, je sais pas, un producteur, un futur collaborateur qui me dit j'ai telle idée, etc. Donc j'ai l'impression que c'est souvent ça, mes journées. Et après, ça dépend, parce qu'il y a des journées un peu plus, on va dire... moins ponctuée, enfin pas quotidienne quoi. De temps en temps, je peux avoir une journée remplie d'un truc créatif, un tournage qui fait toute la journée, mon émission de radio, ça prend du temps.
Ouais.
Donc, et voilà, et après, oui, souvent le soir, bah faut aller sur scène et faire un petit peu de stand-up. Donc, en général, ouais, je mets tout ça dans la même journée. Des fois, ça fait des journées sport où si t'as mis un peu trop de rendez-vous, si t'as mis un peu trop de capter les gens et un peu trop de stand-up, ça peut être une journée où t'as vu beaucoup de gens et t'as fait beaucoup de vélo dans Paris.
Est-ce qu'on appelle ensuite la batterie sociale et t'as plat.
Ouais, ouais, ouais.
Après, t'as plus envie de parler.
Ouais. Mais moi, après, je suis nul à ça, de toute façon. Je suis pas très sociable de ouf, tu vois.
Ouais, c'est ce que tu dis sur scène.
Ouais, ouais, ce que je dis sur scène.
D'ailleurs, je viens de penser, parce qu'on a parlé d'un slip avant.
Ouais.
Et j'ai une question que j'ai oubliée, puisque je viens de repenser à ce que tu dis sur scène.
Ouais.
Parce que tu parles de tes fesses sur scène. Je veux pas spoiler.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ma question, c'était... je pense que c'est la meilleure question du podcast, donc j'aimerais que tu te prépares.
C'est parti.
Est-ce que t'aimes tes fesses?
Ben, pas tant que ça, moi.
Pas de ouf.
Ouais, ouais. Je trouve que j'ai des fesses larges, quoi.
Ah.
Genre, quand je mets un costume, genre, j'ai des vraies fesses, quoi. Genre, je les vois dans le miroir, tu vois. Tu sais, quand je passe... Je me regarde dans le miroir.
C'est
je
de vois... face, tu vois tes fesses.
Non, de profil, je vois mes fesses. Genre, elles me suivent et tout. Genre. Elles marchent derrière moi et tout.
Ah, oui, je veux dire.
Mais ça va, il y a pire.
Oui, oui.
Il y a pire, il y a pire.
Je t'avais pas menti, c'était la meilleure question.
Ouais, ouais.
Ok, parole d'après, dans le ghetto. Attends, je te le fais à la Mathusen.
Vas-y.
Dans le ghetto. Tout le monde dit que le R&B n'est pas du hip-hop. Oh, oh. Qu'on kiffe parler de sexe pour faire mouiller les meufs idiots. Mmh. Alors. Ce qui m'intéresse, c'est on kiffe parler de sexe. Est-ce que dans ta famille et dans ta jeunesse, tu pouvais parler de sexe tranquillement ou c'était un sujet tabou?
Mais pas le moins du monde.
Ah oui,
mais jamais de la vie. Après, shout out to mon oncle qui m'a. En fait, moi, tu vois, j'ai l'impression que j'ai rien eu, mais le peu que j'ai eu, c'était parfait.
Okay.
Donc je vais pas me plaindre. Je vais voir Armageddon avec mon oncle.
Ouais.
Il y a une scène où Ben Affleck et Liv Tyler sont en train de jouer avec des petits animaux en biscuit et ils sont elle est en sous-vêtements. Et moi j'ai tourné la tête au cinéma en disant ah Berk. Et mon oncle il a dit non, c'est pas Berk, c'est juste c'est pas de ton âge. Et juste cette phrase, elle a fait mon éducation.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai jamais été dégoûté du sexe. Je me suis juste toujours dit, attends, c'est pas ton âge. C'est juste pas ton âge, c'est pas grave, tu vois. Et quand on arrive au collège et qu'il y avait des discussions, waouh, qui s'est branlé sur American Pie. Je me disais, non, c'est pas ton âge, Anis. Attends, mais ils sont fous, quoi, c'est juste pas ton âge. Du coup, ouais. J'avais un recul et je crois que ça m'a plutôt bien guidé, tu vois. Cette phrase m'a plutôt bien guidé.
C'est vrai que ton éducation sexuelle, tu l'as faite par toi-même.
Ouais, en tout cas, en étant patient, tu vois. Et du coup, quand j'ai eu le cerveau pour comprendre les choses, je suis pas allé me précipiter dans le truc avec une frustration en me disant, mais attends, j'ai envie de voir les trucs tabous. C'était pas tant tabou, c'est juste m'a dit c'est pas de mon âge, je crois que c'était la phrase qu'il fallait, tu
ouais,
vois.
Très bien.
Mais sinon c'est vrai que ouais, dans ma famille on en discute pas du tout. Je vais te raconter un mini truc qui me fait rire. C'est que un jour mon autre oncle lui qui est moins ouvert, un jour on était en voiture et il m'a giflé genre, et j'étais assis au côté passager mais on parlait pas, hein. Silence d'un coup, zbah, grand gifle dans la gueule. Et tu sais, je crois que j'avais 11 ans, non peut-être pas.
On parlait pas.
Non, mais en tout cas, j'étais pas si jeune, tu vois. Et genre, j'ai pleuré parce que je me suis dit, what?
Bah ouais, tu m'étonnes.
Ça n'a aucun sens. Et tu sais, je comprenais pas et je réfléchissais comme ça. Et 4-5 ans après, mais c'est fou la vie, j'y re-réfléchis. Je me dis, ah, mais je sais pourquoi il m'a giflé. En fait, à ce moment-là, on était sur l'autoroute. Il y a une moto qui passe avec une meuf qui est assise derrière le motard et son string dépasse, tu vois. Mais je m'en suis rappelé, genre.
Wow.
Et je pense qu'il s'est dit, mais d'où il regarde les strings, lui? Allez, tiens, gifle dans ta race.
Ah,
dernière fois, tu regardes. Mais lui, dans sa tête, ça avait du sens. Moi, j'ai pas compris.
Ah, tu m'étonnes.
Et je crois même pas trop avoir regardé le string, tu vois. Juste en... avec le recul.
Ah, la chance d'avoir une moto.
Ouais, t'es ouf. Et bah, grande gifle dans
ah,
la
wow.
tête.
Ah, là, là. Ah oui, donc effectivement, pas très ouvert
ouais,
sur le sujet.
Pas très ouvert
quoi.
Du tout. Ouais. Donc tu vois, là, au moins, je t'ai donné les deux exemples.
Ah bah, c'est un bon exemple. Oui, d'accord. Et donc, est-ce que tu dirais que t'es quelqu'un de pudique?
Ouais, je suis quand même assez pudique, moi.
Ouais.
Genre, je suis pas trop... tu vois, même en couple et tout, je le dis souvent, tu vois. Genre, moi, j'aime bien genre, les couples où genre, tu sais qu'ils s'aiment sans qu'ils te le montrent, tu vois.
Ouais.
J'ai toujours kiffé ça, pareil, à cause peut-être du cinéma, du truc. Et du coup, ouais, je suis assez... J'ai l'impression que je suis assez
pudique. Oui, ça roule pas des grandes galoches en soirée, quoi.
Ouais, ouais. Pourquoi j'ai fait ça?
Hein?
On dirait que j'ai fait ça, comment tu l'as
non,
dit.
Non, t'as
ah, okay.
fait, non.
Je me suis dit, merde, je suis parti en couille. Mais non, en tout cas, voilà, j'ai un côté un peu pudique. Et après, tu vois, c'est ce qu'on disait au début. Moi, je m'en tape quand même assez globalement du regard des autres et tout.
Ouais.
Donc, en fait, il y a des trucs où on doit se dire, mais il n'est pas du tout pudique, tu vois. Parce qu'il y a des trucs, c'est vrai, je m'en tape. Mais globalement, sur les trucs un peu intimes, tout ce qui est de l'intimité, bah, du coup, le couple, le sexe ouais. et tout, je suis plutôt pudique, je me dis... Je me dis,
tu racontes
cool,
pas ça avec tes potes quoi.
Bah, en fait, ce que j'aime bien dans le couple, c'est que tout est un peu abstrait, tu vois. L'amour, tout ça, c'est abstrait. Pour moi, le seul truc qui est concret, c'est l'intimité, tu vois. Ça veut dire que moi, ce que je trouve choquant dans la tromperie, c'est de me dire, attends, mais il y a un grain de beauté, il y a que moi et tes parents qui le connaissent.
Ouais.
Maintenant, il y a un autre gars qui, enfin, tu vois, dans l'absolu, il y a pas que ça.
C'est
tu
une
vois,
façon très poétique de le dire, mais je vois ce que tu
ouais,
veux dire.
Ouais, mais tu vois, il y a un côté genre en fait l'intimité.
Tu veux dire qu'il a vu ton grain de beauté?
Surtout que voilà, elle a eu des ex, des trucs. Il y a plein de mecs qui ont encore des photos du grain de beauté. Mais je veux dire globalement, l'intimité c'est concret, donc il y a un truc que je trouve que j'aime bien de se dire, bah c'est notre truc à nous. on a décidé de le partager à nous, de se partager même, je sais pas, des complexes aussi, tu vois. C'est pas que genre les seins ou quoi, ouais. Mais même, vas-y, ce complexe-là, je le partage qu'avec toi, c'est concret, tu vois. Alors que dire on s'aime, c'est pas en vrai, c'est un peu abstrait, tu vois.
Oui,
on
oui.
peut pas vérifier, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Mais plutôt pudique.
Ouais, plutôt, ouais.
Ok.
Plus que Matthew Stone, en tout cas.
Matthew Stone, il sont bon, il est fou. Je sens que c'est plus qu'une
image. Bah, c'est ça.
Parole d'après, dans le Ghetto Ghetto, tous les MC testent les New Jack. Alors, attends, c'est très dur à dire. Testent les New Jack Illico O. C'est très bien écrit, hein. Franchement, on comprend rien. C'est le même dièse, papy. Alors, tu dis quoi de ça, yéyé?
Oh là là.
Alors, bon, une question là-dessus, c'était très dur, mais. Ça m'a fait rebondir sur « c'est le même dièse, papy ». Question très simple pour toi.
Okay.
Tu utilises des hashtags?
Bah oui, bien joué, putain. Bah, pas du tout, hein.
Mais non. Qui utilise des hashtags?
Mais est-ce qu'on l'a fait à un moment?
Moi, j'ai jamais utilisé d'hashtag.
Bah ouais.
Il y a des gens qui disaient... Non, mais même parfois, ils le disent à l'oral. Hashtag...
Ouais. Ça... Mais moi, je crois que j'ai utilisé les hashtags en détournement très vite.
Oui, voilà.
Mais je me rappelle, je faisais des phrases, quoi.
Oui, 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 des phrases.
Genre des longs trucs qui sont une vanne en mode... Je sais plus, je me rappelle plus, mais je me disais... Mais moi, j'ai... Par contre, ah non, ça, il faut que je te raconte ça. Peut-être que je prends trop de temps avec mes digressions,
non,
mais
t'inquiète.
Tu poses des bêtes de questions. Moi, je me suis fait virer d'un taf à cause d'un hashtag.
Ah bah voilà, bah tu vois.
Mais j'avais oublié, en fait. Moi, à un moment, je travaillais en tant que... Tu vois, les gars qui ont des gilets dans les gares, là, qui servent à rien.
Oui, les petits conseillers,
ouais. Mais genre, ils sont là que s'il y a un problème et du coup, on leur crie dessus, les pauvres. Donc, c'est dur parce que la plupart du temps, tu fais rien. J'ai fait ce travail-là, donc agent d'accueil en gare, je crois que ça s'appelait. Et en fait, j'ai fait ça pendant la canicule. Et pendant la canicule, ils nous ont dit, les gens, ils auront chaud, ils vont être énervés. Surtout que nous, on vient dire que tel métro ou tel RER ne marche plus. Et vous allez leur distribuer des éventails. Et moi, je trouvais ça absurde. Je me disais, mais les gens, ils vont nous casser la gueule avec les éventails. Du coup, j'ai pris en photo le stock d'éventails et j'ai dit, regardez ce qu'ils ont prévu pour la canicule. Hashtag SNCF, normal. Tu sais, j'avais 40 abonnés. Je me disais, on s'en fout, tu vois. Et puis un jour, on m'appelle, on me dit, ouais, bah, à Nice, eux, ils regardent le hashtag SNCF. Du coup, t'es viré, quoi.
Ah, putain.
Viens chercher tes affaires. Comment, enfin, c'est inadmissible de faire ça. Et du coup, j'ai été émontège à cause de ça.
Parce que j'ai mis le hashtag. Juste avec ma question.
Ah ouais, t'es tombé juste. Mais ce qui est marrant, c'est qu'un jour, je recroise une meuf qui fait staff et on discute et tout. Et, elle me parle de la formation et elle dit que dans la formation, ils parlent de moi. Genre, je suis devenu un cas d'école
ah,
en mode.
Génial.
Dans la formation, ils disent alors, il faut pas boire au travail, il faut pas être drogué et surtout les hashtags. Faites attention parce qu'on a un gars, il y a deux
ah,
ans,
putain,
je suis devenu un gars dans la formation, l'exemple. Et tu sais, le gars où quand t'entends dans la formation, tu dis mais il est malade d'avoir fait ça,
ouais.
C'est moi ça.
Ah, bien joué.
Je suis fier.
Hashtag SNCF, bah ouais. Et après, il s'est dit mais comment ils l'ont vu? Bah, t'as écrit SNCF en fait.
Et après, quand j'ai commencé à boire, la première soirée où je suis bourré, j'ai mis hashtag SNCF à tous mes tweets. Genre, vas-y, là, on va rentrer en Uber, hashtag SNCF pour tout. J'étais énervé. Je me disais, vous voulez lire mes tweets? Bah, allez lire ça pour ta foi. Quel guignol.
Et très marrant. Bravo. Alors, de Paname aux US. Alors, de Paname aux US, Los Yolega, de la East à la West Coast, c'est le ghetto.
C'est vrai.
Ouais. C'est vrai. Est-ce que t'as beaucoup voyagé?
Oui, franchement, oui. Je oui. me rends compte par rapport à la moyenne oui. des gens et tout, si j'ai quand même pas mal voyagé. C'est juste que j'ai voyagé tard. Parce que mon premier j'ai commencé toute ma vingtaine, j'ai fait tous mes voyages, quoi. De 0 à 20 piges, quasiment aucun voyage.
Ouais, après,
et de 20 à 30 piges, je me suis rattrapé de fou, quoi.
Et
j'ai bien défoncé la planète.
C'était quoi le meilleur voyage de ta vie?
J'ai l'impression que bah là, j'ai fait un voyage vraiment dingue. Là. Mais non, mais le premier qui m'a vraiment marqué, c'est le Japon. Ouais,
ah bah ouais.
C'est un peu tous les trentenaires blancs disent ça.
Ouais, on est allé au FL, c'est la claque.
Mais non, en fait, moi, c'est juste que c'était tellement dépaysant, ça m'a tellement fait prendre du recul sur plein de trucs. Enfin, un voyage, quoi. En fait, un bon voyage, c'est censé être ça, tu vois.
Ouais.
Que ça soit Japon ou pas, tu vois. Ça m'a permis de bien être tellement dépaysé que ça m'a fait avancer ma réflexion sur plein de trucs. Et j'ai kiffé. Et en plus, j'avais les refs et je kiffe la culture.
Et t'as ramené énormément de...
Et j'ai ramené plein de trucs,
ouais.
Bien entendu. Mais voilà, il y a eu ce côté genre... Ça m'a donné les critères pour un bon voyage, tu vois. Et après, j'en ai refait des. Tous ceux que j'ai fait après, j'ai kiffé, tu vois. Mais avant ça, je voyageais un peu en mode, je sais pas trop ce que je veux, tu sais. Est-ce que je vais là, mais en fait, j'ai pas kiffé, je suis pas trop sorti.
Ouais.
Et au final, je me dis, j'ai dépensé de l'argent pour rien.
Tu vas voir un truc, tu dis, ouais, comme ça, je l'aurais vu, quoi.
Ouais, tu vois, il y avait. Alors que là, le Japon, ça m'a fait me dire, ok, mon standing, c'est ça. Ce que je veux, c'est à la fois ça, à la fois découvrir les gens, à la fois ci, à la fois kiffer la culture.
Mais souvent...
Et après, tous mes voyages, ils ont été.
Ouais, mais tu te dis souvent, moi, je me dis, parfois, les bons voyages, je me dis, ah tiens, le truc qui marche, je dis putain, mais on dirait que c'est chez moi quoi, je pourrais vivre là, j'aime trop. Sauf qu'en fait, Japon, j'ai trop kiffé, mais je me suis pas trop dit ça pourrait être chez moi.
Tu peux pas vivre là-bas.
C'est vraiment un autre délire, je me suis dit c'est un autre délire.
Ouais, parce que c'est tellement dépaysant que ça te fait. Tu sais, ça te.
Autre part quoi.
Il y a un apaisement et tout.
Ouais, de ouf. Je suis trop d'accord. En plus, j'avais la chance de me balader tout seul dans Tokyo.
En slip.
En slip.
Ouais, on a le droit là-bas, je crois.
Là-bas, on a le droit. Hey, mamie, R&B de rue, bouge tes seufs. Yo, papy, crie juste. Oh, 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 oh.
Ok, il peut pas bouger les fesses.
Alors,
le mec.
Comment on trouve une question à propos de ça? Eh ben, c'est bien simple. T'as des bons rapports avec tes grands-parents?
Bah, moi, j'ai été élevé par mes grands-parents. Après, okay. Les deux sont décédés, malheureusement.
Okay.
Mais j'ai été élevé par eux en mode, c'est mes parents, quoi.
Okay.
Donc, j'ai eu un bête de rapport avec eux. Moi, j'ai toujours valoriser les vieilles personnes, les personnes âgées. J'ai grandi avec leur rythme, avec leur ref, avec Question pour un champion, le coulommier, le yaourt nature,
le
tu vois.
Ah oui, pas de sucre.
Ouais, moi, c'était dans mon frigo, tu vois. Et leurs médicaments. Donc moi, j'avais le frigo le moins sexy du monde, tout vrai. Un étage de médicaments, un étage de yaourt nature, de coulommier.
Putain.
Et quand j'allais chez des gens et qu'il y avait genre, tu sais, les danettes avec des boules et tout, moi, juste la couleur. Pour moi, la réussite, c'est un frigo avec la couleur. Tu vois. J'ai toujours ce truc de les gervais, tu sais, toutes les couleurs, ouais. Les pommes, les tomates, les trucs, le coca. Bah, moi, chez moi, c'était un frigo blanc, genre coulommier, yaourt nature, médicaments blancs. Genre. Mais j'ai grandi du coup avec ça, avec leurs refs, avec leurs trucs. Et c'était très cool parce que les grands-parents et tout, chez moi, c'est comme si j'étais, limite comme si j'étais à l'hôtel, tu vois.
Ouais.
Parce que, genre, ils s'occupent de tout. On parle pas tant que ça, je vais pas mentir, tu vois, t'as pas la même relation avec des grands-parents, ils sont plus là comme si t'es à l'hôtel, genre ils te font, ma grand-mère elle faisait mon lit alors je disais non, je laisse, je rentrais, le lit il était fait, tu vois, parce qu'elle est comme ça, elle est protectrice,
ouais,
en mode je veux qu'il soit bien, je veux qu'il soit tout le temps bien et tout, tu vois, donc j'ai kiffé, j'ai surkiffé, tu vois, et après quand tu vis avec les grands-parents, t'es un peu la maison aussi, la capitale, tu vois, genre dès qu'il y a une fête, c'était chez moi,
oui.
Dès qu'il y a des rendez-vous familiaux, c'était chez moi, donc j'ai kiffé ça. J'ai trop kiffé, ouais.
Et tu te vois... comment tu te vois, papy? Comment tu te vois quand tu seras bien vieux?
Je pense que je vais être encore un papy mature, tu vois. Je pense que je vais être ce genre de gars, tu vois. Parce que déjà, là, tu vois, j'ai 33 ans. Je suis pas très mature, déjà. Genre, moi, quand je garde des gosses et tout, c'est...
Vous faites nope.
Non, mais genre, tu vois, je te donne un exemple. La dernière fois, je suis avec mes cousins, ils jouent à FIFA et ils attendent chacun leur tour. Et je me dis, putain, mais il faut un jeu, on peut jouer à plusieurs. J'ai voulu qu'on aille acheter la Switch.
Ah ouais.
Sur un coup de tête à 14h, on part acheter la Switch.
Trop bien.
On va dans un centre commercial, on achète la Switch.
Mais tu vois, d'avoir. Parce que c'est quand même un luxe de pouvoir l'idée de le faire. D'avoir le luxe de faire ça.
Ah, c'est dingue.
C'est un bonheur absolu.
Bah oui.
C'est de dire, vas-y, c'est une dinguerie, viens, on le fait.
Ouais, bah oui. Mais
et
moi,
c'est trop bien.
Bah, c'est, je pense comme toi.
Mais pour les petits, c'est fou.
Ah, bah eux, mais quand je rentre dans une pièce, c'est genre. Ah
mais oui, genre... moi mes neveux je leur ai fait ça, hein,
ouais,
mais
ouais,
je leur ai refaire la Switch sur un jour de non-événement.
Ouais, bah c'est
ça. Je suis arrivé à la table, j'ai fait ah, tiens j'ai un truc pour vous. Ils étaient là, tu sais un truc qu'ils ont demandé à Noël qu'ils n'avaient pas eu et tout. Et c'était feu quoi, tu
vois. Bah on est pareil, moi je suis dans
j'aime
le même
trop.
Mood. Bah je pense que je serais ce genre de papy, tu vois, qui dira
ouais.
Papy bon cadeau on va à Disney. Let's go. Allez on va à Disney.
Vas-y,
bon
à
je
Disney.
Peux pas faire toutes les attractions.
Je vous attends.
À cause de mon lumbago.
Je vous attends. Ok, trop bien. Écoute, de la East à la West Coast, yo and world. En baggy ou en Lévi-Strauss? C'est le ghetto, les gars.
Ok.
Alors déjà, plutôt baggy ou Lévi-Strauss? Plutôt mais baggy.
Ouais, je préfère les trucs confortables si on va dans ça, plutôt baggy.
Et ma question que j'adore poser dans ce podcast, quel a été ton pire style ever?
Ah bah moi j'en ai eu beaucoup. Hein.
Je sais.
L'enfoiré.
Je sais, j'ai vu une photo.
Oh là là, j'étais, moi j'étais en L et tout, j'ai suivi le mouvement, j'ai fait n'importe quoi. Ah j'ai fait n'importe quoi, je pense que mon pire style... En fait, moi j'ai eu des pires styles en mode gel et compagnie, le rebeu de Barbès, là, j'ai eu ça, tu vois. Mais à la limite, ça c'était un passage obligé. Là où je m'en veux, c'est d'être allé chercher des trucs, personne m'a demandé de mettre genre des trench alors que j'étais en terminale, tu vois. Je m'habillais comme les profs alors que j'étais en terminale. Et moi j'ai eu genre foulard, chapeau, tu vois. Je pense que c'était
ah oui, j'avais
truc.
Vu ça, je crois.
Foulard, chapeau et t-shirt et gilet d'homme par-dessus.
Oh,
ça,
oui.
Oh, je déteste. Et un slim, bien entendu.
Des bracelets et tout?
Bracelet,
ah oui, bien
entendu,
sûr.
Slim et Vans, plate.
Ah oui, oui,
donc
oui.
Le combo du bébé brune originel. Donc j'étais dans ça, ouais, à fond. Foulard, chapeau, ça n'a aucun sens. Des trucs qui... J'avais chaud au cou.
J'avais chaud.
Je n'avais pas besoin de mettre ça. C'est ça, c'est mon pire style, je pense.
Ah, il est bien
lâché. Ah ouais, il est bien lâché.
Il dégoûte. Ok. Écoute, je suis aussi hip-hop que toi, Renoir. Je squatte mon Redman et mon Rough Rider.
Ok, c'est là, ouais.
Eh oui.
Ah, mais en fait, Rough Rider, c'est un groupe de musique.
Oui.
Je viens de capter, en fait, depuis.
Mais allongé avec Mago, je préfère sur un disque de Joe, tu le sais.
Ouais.
Ok.
Ah oui, ok, j'ai compris.
Donc la question, elle est très simple. Quel est le premier CD que t'as acheté ?
Le premier que j'ai acheté pour offrir à quelqu'un, ça me marque parce que c'était Jean-Pascal l'agitateur. J'ai offert ça à un anniversaire à Mélissa. Bref. Mais moi, le premier truc que j'ai acheté, c'était un single aussi. Tu sais, c'était l'époque des singles. Et je crois que c'était Cry Me a River de Timberlake.
Okay.
Voilà. Pas trop la honte, pas trop stylé. Aucune anecdote.
Ouais, un truc.
Mais au moins, on voit un peu l'époque, quoi. J'étais 2002-2003.
Mais quand même un énorme hit.
Ouais, qui a un gros
hit. Et qui
n'a
pas vieilli.
Et à l'époque, tu sais, t'avais les instrus en deuxième son, quoi.
Ah, voilà. Tu pouvais faire dessus.
Ouais, je pouvais chanter dessus. Ouais, ça, je me suis donné. Ouais.
C'est vrai. Et d'ailleurs, on l'a pas précisé, mais c'est vrai que la chanson de Matt Houston, R&B de rue, parce que moi, je suis DJ le week-end au Madame Arthur, et ben franchement, la prod, elle vieillit pas.
Ouais.
Genre, tu le vois dans
les gens,
quand tu le passes en club.
Ouais.
Tu vois, quand tu passes en club, le son, il est fat.
Ouais.
Franchement, c'est quand même pas mal.
Ça tue.
Mais
classique.
Ah, c'est un classique. Donc, Cry Me a River de Justin Timberlake. Quand même, un petit cœur sur la carapace déjà.
Ouais, ouais.
Ok, il reste plus que trois paroles dans cette chanson. On est dans le même camp, toi et moi, N-Word.
Ouais.
Si tu devais... Alors, c'est un peu abstrait ce que je veux dire, mais je pense que tu vas comprendre. Si tu devais décrire un camp dans lequel tu te trouves dans la société, ce serait quoi ? Tu défends quel camp ?
Bah, moi, je défends le camp de l'ouverture d'esprit, je pense, tu vois.
Ok.
Parce que j'aime tous ces mélanges. Je suis un gars issu de mélanges à tous les niveaux. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, je regardais des dramas coréens. Enfin, j'ai l'impression que ma vie, elle est faite de...
Drama coréen déguisé en bébé brune,
non,
en mangeant du
colombier. En plus, j'ai grandi chez mes grands-parents. Moi, j'étais élevé par une famille antillaise pendant 6 ans. J'ai l'impression que moi, en fait, je suis... Mais c'est tout le monde, en vrai, tu vois. C'est juste que je rentre dans des archétypes où on voit le mélange, mais j'ai l'impression que toutes les personnes qui grandissent en France, ils ont cette force de, je sais pas, avoir un pote qui est dans ça, avoir fait un peu de dancehall, avoir mangé de la bouffe malgache, tu vois. Et moi, je trouve que je me mets dans ce truc d'ouverture d'esprit. Je me vois bien dans ce camp. Après, le fait est que sur les trucs qu'il faut pas renier et tout, comme on disait au début, bah, je suis dans un camp de minorité, en tout cas. Je suis toujours renvoyé en France dans le fait que je suis dans une minorité, tu vois. Alors que, c'est pour ça qu'il y a une ambivalence. Je me vois dans un camp majoritaire qui est juste les gens qui kiffent le mélange, tu vois.
Ouais.
Et j'ai l'impression que c'est une grosse partie des gens, en fait. Tout le monde kiffe ça, tu vois.
Mais du coup, toi, tu dirais que t'es... Donc, si t'as une valeur que tu défends, c'est l'ouverture d'esprit.
Mmh.
Mais est-ce que toi, maintenant, à 33 ans, t'es capable... Tu te sens à l'aise dans tous les milieux, dans toutes les soirées. C'était, tu vas dans une soirée de méga bourge, tu vas à l'Elysée, tu vas n'importe où, t'es à l'aise partout.
Bah, je suis à l'aise partout où il y a de l'ouverture d'esprit. C'est
ouais,
tout.
Ouais.
Mais sinon, ouais, je suis à l'aise partout, moi. Je t'ai dit. Hein,
t'as pas de genre, justement, ce syndrome de « Oh là, j'ai rien à faire là ».
Bah, ça m'arrive quand on me le renvoie, c'est tout, en fait.
Okay.
Et des fois, c'est insidieux, c'est pas volontaire. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits où des fois, on me le renvoie, tu vois.
Genre globalement... Paname. Ah, je rigole.
Non, mais globalement, en fait, oui, ça veut dire que je peux matcher... dans n'importe quel univers, avec n'importe quelle personne. Moi, je me rends compte souvent quand je fais mon anniversaire, les gens, ils ont tellement rien à voir.
Ouais.
Enfin, à chaque fois, c'est là que je me rends compte que, ah oui, en fait, je m'en tape, moi. Genre, souvent, quand tu fais un anniversaire, tu vois un peu une tendance, etc. Et, tout.
Et tous les groupes arrivent à se mélanger quand même.
Bah, en fait, moi, je suis le point commun. Et souvent, mes potes, ils me disent ça. Ils me disent, mais ce qui est fou, c'est que toi, t'arrives à. Tu vois, j'ai des potes vraiment, les blancs de base et tout, qui sont là à mon anniversaire. J'ai des mecs de cité. Moi, j'ai un de mes potes, souvent, je sors cet exemple. C'est un Italien, il a 48 ans. Il fait 1m50, il est venu faire une thèse sur les banlieues et tout. Depuis, c'est mon gars, genre. Et il est à mon anniversaire à chaque fois en mode « Oui, bonjour !» Et tout le monde dit « Mais pourquoi il y a un petit Italien avec nous, tu vois, de 50 balais ?» C'est mon gars, tu vois.
Ah, c'est trop marrant.
Et j'ai toujours eu ce truc-là, tu vois, de mélange de ouf et tout. Donc ouais, je me vois bien dans ce camp-là.
Ok, très bon camp. Bah ouais, camp d'ouverture d'esprit.
Bah on a gagné la guerre, je crois.
Bah avec... ouais.
Non, c'était pas ce camp-là, putain, je comprends.
Très bon camp. Écoute... La parole d'après, c'est « Alors MC, remballe ton ego. Est-ce que tu as déjà senti à un moment dans ta vie que tu te la flambais de ouf consciemment ou non ?»
Ah bah tout le temps.
T'as pas des fois où tu fais « Oh vas-y, oh, putain, quand j'ai dit ça, on a l'impression que je me la pétais de fou. » Tu vois ce que
bah
je
non, c'est ça le problème. C'est que je me le dis jamais. Donc j'ai un ego de bâtard.
Ah oui, d'accord, non, okay, voilà. Ok.
Moi je crois que j'ai hyper confiance en moi. Et
donc il y a déjà des gens qui ont pu ressentir que tu te la pètes.
Ah oui, mais ça on me le dit souvent, moi.
Ah ouais ?
Ah ouais, je te jure. Hein. Moi, enfin, pas que je me la pète, mais que je suis très narcissique, je suis très égocentrique. Okay. J'ai l'impression que c'est le lot des artistes. Hein.
Bah moi on me le dit pas mais...
Ah bon bah c'est...
je suis peut-être pas
faudrait peut-être que je me remette en question. J'ai voulu accepter en disant bah non c'est comme ça, c'est normal. C'est pas normal, mais quoi, je suis désagréable avec les gens, c'est normal. Non mais ouais je pense que...
Mais alors la question que je me pose souvent, ouais, c'est que parfois t'es en soirée, tu dis waouh lui il se la pète, et je me dis, je parle pas de toi,
ouais, ouais,
je me dis c'est comme les méga relous, tu vois, ouais, les gens qui sont lourds et ouais, tout, je me dis est-ce tu te rends bien compte que t'es ouais, lourd là ouais, quand tu fais ça. Ou alors, comment c'est possible que tu... Et les gens qui se la pètent, c'est pareil, je me dis, ils se rendent bien compte qu'ils se la pètent, là.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il est en conscience de je me la pète, mais c'est pas grave parce que je le vaux? Ou est-ce que c'est genre, je m'en rends même pas compte tellement je me la pète? Tu vois ce que je veux dire?
Mais je crois qu'il y a les deux. Hein.
C'est bizarre.
C'est ça qui est fou. Il y a les deux. Tu vois les gens qui se la pètent en mode parce qu'ils ont pas confiance en eux.
Oui,
et du coup, ils ont besoin de dire, vous avez vu, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et après, il y en a qui sont genre les non-lucides, comme on dit, bah, qui sont en mode genre, ils se rendent pas compte qu'ils parlent beaucoup, qu'ils ramènent les trucs à eux. Tu les vois, ces gens-là, bah, des fois, oui, genre, oui, ils font pas exprès en mode, ah mais c'est comme moi. Et tu te dis, ah ouais, mais ils se rendent pas compte. Moi j'avoue, je suis pas dans ça, mais j'ai ce truc ouais, d'avoir hyper confiance en moi. Moi, souvent, quand je bosse avec les gens, je dis, moi, ce que je vais faire, c'est l'un des meilleurs trucs que vous avez. Tu vois, je suis très comme ça, moi.
Oui.
Je suis en mode, là, je vous propose l'un des meilleurs projets que vous pouvez avoir. Après, si vous voulez pas le faire, c'est pas grave.
Mais alors, c'est intéressant parce que je me suis posé la question un peu plus tard qu'hier, en parlant de stand-up. Mmh. Je me disais, à quoi bon faire un spectacle si tu te dis pas que ce sera le meilleur spectacle?
Bah, oui.
À quoi bon le faire?
Bah, c'est
tu veux
comme...
dire, je vais faire un... Oui, mon spectacle, non, mais c'est très normal. Hein, c'est tout à fait. C'est pas dingue. Tu vois, c'est pas possible de penser comme ça.
Et en même temps, je trouve ça pas prétentieux dans le sens où tu fais le meilleur par rapport à toi, quoi.
Oui.
Tu fais pas le meilleur par rapport aux autres.
Oui, mais comme il est destiné à des gens, tu vas dire, comme tu dis, c'est le meilleur mais truc voilà, que vous ayez jamais vu.
Mais c'est ça qui fait que les gens, ils peuvent. Enfin, qui trouvent, moi, en tout cas, des fois que je peux avoir très narcissique. C'est que moi, je veux faire le meilleur truc possible, mais par rapport à moi, c'est pas par rapport aux autres.
Je pense que c'est plus confiant que narcissique.
Ouais, ouais, mais ça, c'est le débat de la France. Regarde tous les sportifs là, qui...
C'est, quand tu dis, vous allez voir, c'est le meilleur truc que vous allez jamais voir, c'est j'ai confiance en moi, mm-hmm, ça va être le meilleur truc. Mais si tu dis, vous avez vu, c'est le meilleur truc que vous avez jamais vu, non? Là, tu te la pètes.
Oui, bah oui.
C'est genre, vous allez voir, j'y crois.
Mais je trouve qu'il y a des gens qui mélangent les deux et c'est pas grave, ça me dérange pas.
Là, tu te la pètes, quoi.
Ouais, avec
c'est
des fois...
C'est la conclusion, quoi.
Ouais, voilà. Moi, je suis d'accord avec ça.
je baisse les armes. Quoi, je ok. Très bien. Écoute, la dernière parole. On arrive déjà à la dernière parole. Je me fous des Ondi, player OG. C'est le même Sevi OO. Et franchement, en vrai... Si t'avais pas les paroles sous les yeux, c'est impossible de comprendre ce qu'il dit. Alors, ça rejoint un peu... Alors, en global, on va résumer.
Ouais.
Tu voudrais qu'il y ait écrit quoi sur ton épitaphe, par exemple? Genre, ce que les gens vont retenir de toi, c'est quoi? Me redis pas l'ouverture d'esprit, on a compris, c'est bon, stop. Parce c'est les on-dit. Je m'en fous des on-dit, mais si on a pu avoir des on-dit sur toi, ce serait quoi?
Bah alors, je vais dire un truc que j'ai vu il y a deux jours...
À propos de toi?
À l'hôtel, en regardant la télé, parce que je regarde jamais la télé. Quand on était à Frames, là, il y avait un truc sur Clint Eastwood, et j'ai regardé ça. Et lui, il a dit un truc qui me va très bien. Mais moi, je veux qu'il n'y ait rien écrit, frère. Je veux qu'il n'y ait rien écrit. Et que ce que j'ai fait, ça parle pour moi, c'est tout. Je n'ai pas envie que moi, je parle pour moi. Tu vois. N'écrivez rien sur ce caillou.
Ouais.
Et j'espère que ce que j'aurai fait dans ma vie, ça parlera pour moi. Ce que j'aurai créé dans la vie, ça parlera pour moi. Ça fait le taf, tu vois. Voilà.
Très bien.
C'est pas de moi, c'est de Clint Eastwood.
Il y en a une interview de David Lynch avec. Comment il s'appelle j'allais dire Reddin Stanton, mais je crois pas que ce soit ça. C'est le mec qui joue dans Paris, Texas.
Ouais.
Et il lui dit qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi? What can you say about yourself? Ouais. Et il dit there is no self. Il n'y a pas de self, ça n'existe pas. Donc on dit rien. Et c'est exactement
ça
c'est
parle,
genre. Hein. C'est vrai à dire en fait.
Ouais, bah ouais.
C'est genre, moi je suis rien, ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas.
Ouais,
ce podcast
d'accord.
N'existe pas. Anis, tu n'existes pas. Cette conversation n'existe pas. On est dans un monde. Qui n'existe pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, du coup, tu veux. Voilà, on retient rien, quoi. On retient
non,
rien
mais
toi.
Qu'on retient ce que j'ai fait avant, pas ce que je dis.
Pas quand coupe,
ouais. sur une pierre, quoi.
Oui, oui, je comprends. Et ben, moi, je pense que sur la pierre, il y aurait écrit on peut se balader en slip. Pas du tout. Ok, c'est la dernière
à
question.
À ton enterrement, tout le monde sera en slip.
En fait, je mets même pas de slip.
Il fait un peu froid.
Je sais même pas pourquoi je dis ça. Je mets des vieux caleçons du collège, là. Tu mets quoi, toi, slip, caleçon ou boxeur? T'es un boxeur,
moi,
toi.
Je mets des boxeurs. Ouais,
ah, t'es sûr.
Ouais.
Je mets les caleçons et parachutes, là.
Mais j'ai l'impression que quand t'as mis des boxeurs toute ta vie, tu peux pas mettre des caleçons d'un coup et vice-versa, tu vois. C'est-à-dire, moi, mes couilles, elles peuvent plus.
Quand on était petit, on mettait des slips. Quand on était petit, on mettait des slips. Tous les petits, mettaient des slips.
Ouais, oui.
Après, les slips, tu dis, t'arrives au collège et tout, tu fais, bon, vas-y, je mets des caleçons maintenant. Je suis un adulte.
Ah bah moi je suis resté un ado alors. je suis resté caleçon quoi.
T'es resté boxeur, ouais, ok. Ok, écoute, c'est le même sevi. Si tu devais dire quel est ton vice, ce serait quoi? T'as bien un vice caché.
Bien sûr, non, bah, j'en ai plein.
Parce que tu fumes pas.
Ouais.
Tu bois pas trop.
Bah moi j'ai quand même la bouffe, ouais.
Ah
mais
oui.
Bon, après, c'est nul, j'ai l'impression qu'on dirait que je veux pas dire un vrai vice.
Non, mais ouais.
Mais je pense que les gens, ils sous-estiment.
Je pourrais dire la malbouffe.
Ouais, la malbouffe, même l'addiction, je sais pas, au sucre, etc. et tout. Moi, franchement, enfin, les moments où je vais très mal, par exemple, je peux commander deux fois à manger dans la nuit, tu vois. Donc pour moi, c'est comme la drogue, tu vois.
Ah ouais.
Donc ça veut dire que c'est bizarre. Et genre, quand j'étais plus jeune. Je sortais la nuit pour aller m'acheter une bouteille de coca, tu vois. J'en avais besoin, je voulais une bouteille. Je voulais m'enfiler une bouteille, tu vois. Donc ça ressemble
genre
vraiment...
des obsessions, quoi.
Ouais, mais ça ressemble un peu à des... Si on remplace ça par de la drogue ou même de l'alcool,
ouais, bah
ça choquerait les gens, tu vois.
Ça peut être une
et en vrai, ça fait tout aussi mal au corps, tu vois. Donc ouais, moi j'ai un vrai... Mon plus gros vice, je pense, c'est ça, c'est la bouffe.
Et t'as déjà fait des régimes et tout?
Ouais, bah un jour, j'ai perdu 20 kilos, genre. Enfin, un jour, sur 3-4 mois, j'ai perdu 20 kilos. C'était hyper facile à faire. Mais j'arrive plus là.
Il a fait bon, c'est pas pour
non,
moi.
Non, en fait, j'ai fait un truc tellement drastique et c'est pas bon parce que du coup, c'était dur de rester comme ça.
Comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais,
ouais.
Mais ouais, je pense que le mieux, c'est le petit à petit, c'est changer les habitudes. Tu vois, on nous survend le côté genre, vous pouvez faire ça vite. Je crois que non, c'est pas grave. Genre, si tu prends ton temps, chacun son rythme, pour changer une habitude, c'est déjà bien, tu vois.
Mais c'est exactement. Je pense que de toute façon, ça rejoint un peu tout ce problème de l'époque des réseaux où on scrolle et que deux vidéos sur trois, c'est des gens qui disent tu devrais vivre comme ça, mec.
Ouais, ouais.
Et t'es là, ouais, mais tu devrais faire ça, fais du sport. Quoi, ouais, pourquoi tu scrolles?
Ouais.
Regarde, moi j'ai battu mon business. Oui, ta gueule. C'est
ouais,
un peu ça, ouais.
Ouais, ouais, ça, ouais.
Bon, bah, le vice, ce serait la bouffe. Mais
ouais.
Quel bon vice en même temps. Non, mais en vrai, voilà, bon.
Mais c'est ce que Depardieu dit tout le temps.
Ah oui, tu vois, on habite dans un pays où on a tellement de.
Est-ce qu'on n'est pas tous des Depardieu?
Oula, allez, bon. C'est dommage, j'étais bien ce podcast. C'est dommage.
Non, mais ouais, ouais. Bouffe, faut pas sous-estimer. Les addictions au sucre et tout. Vrai vice pour le coup.
Je vais te poser la dernière question qui n'a plus rien à voir avec la chanson que j'ai même posée à la fin d'un podcast.
Okay.
Si tu allais voir le Anis de 12-13 ans et que tu devais lui donner un conseil avec ton âge de maintenant, tu lui dirais quoi?
Pas de stress, mec. J'irais pas de stress.
La vie
de ma mère, ça va le faire.
Ok.
Voilà, je dirais juste ça.
C'est bien, pas de stress.
Ouais, pas de stress, mon gars.
Tranquille.
Et il dirait quoi?
Et aussi, mets pas les trench comme les profs là. À un moment, tu vas avoir envie de faire ça, fais pas ça. C'est pas
si
ouf.
T'es pas à l'aise dans le slim, le mets pas.
Mets pas les bracelets,
trop
là, c'est bizarre. Ok. Eh bien, très bien, merci. Écoute, c'est la dernière phase du podcast. Voilà ce qu'on fait en général. On dit, on prend tous les trucs dont on a parlé dans le podcast et on met vive avant pour célébrer ce qu'on s'est dit. Donc, faut réfléchir
ouais,
à des sujets dont on a parlé.
Ouais.
Et comme ça, on fait un petit résumé. Je commence.
Ouais.
Je vais dire. Vive le Coulommier.
Vive l'ouverture d'esprit.
Vive l'ouverture d'esprit. Vive mettre une bague dans un dans un panier de cerises.
Vive les bouteilles de coca à 1h du mat.
Oh ouais. Vive FIFA pour se détendre.
Ouais. Vive le Frame Festival, dédicace.
Exactement. Et vive. Attends, t'avais dit un truc tout à l'heure, je me suis dit, il faut que je retienne. Ah, vive les comédies romantiques coréennes.
Vive les dramas coréens.
Les dramas coréens.
À fond. Vive Terror Squad, Lean Back.
Oui. Et vive évidemment les trench de prof et les slim de bébé brune.
Ah, j'ai eu peur que tu dises vive Depardieu.
Et bon. Vive Anis Rally.
Yes, vive Gigi Pop.
Ciao, merci
Let's
pour tout.
Go.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.